bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, petit message, il y a un truc qui vous aura pas échappé. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, les notifications, les emails et toutes les distractions, eh bien, on n'est pas hyper nombreux à se sentir très productifs. On traîne, on procrastine, on priorise pas les tâches et au final, on termine toutes nos journées sans jamais avoir accompli tous nos objectifs. Et le pire, c'est que ça peut même impacter notre santé. Par exemple, on prend pas le temps d'aller voir son thérapeute pour une petite douleur ou pour faire un check-up. On ne met pas en place une séance d'étirement, on n'a pas le temps d'aller au spa se faire masser, de se faire des bons repas, etc., etc. Et pourtant, si je vous disais qu'il existait un moyen efficace pour être plus productif, pour en faire plus en moins de temps et de se dégager un maximum de temps libre, eh ben c'est possible grâce à la courbe biologique de la performance. Alors je m'explique. Le secret de la productivité, c'est pas de passer plus d'heures à bosser ou de se rajouter un maximum d'heures dans sa journée. C'est pas possible, on a que 24 heures et des obligations. Non, l'objectif, c'est d'identifier vos différents niveaux d'énergie, vos pics de concentration, puis de répartir vos différentes tâches de travail à des moments clés de votre journée et selon ces niveaux d'énergie. Et c'est ça ce qu'on appelle la courbe biologique de la performance. Et devinez quoi ? Il y a des tas et des tas d'entrepreneurs et de sportifs de haut niveau qui l'utilisent et qui leur permet d'accomplir bien plus que n'importe qui, en tout cas que vous et moi aujourd'hui. Et alors si je vous en parle, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle. Mon ami Jérémy Coron, qui est spécialiste en neurosciences et qui était d'ailleurs passé dans l'épisode 76 du podcast, il vient de sortir un tout nouveau programme. Ça s'appelle Routine Haute Performance et ça va justement vous aider à décrypter votre propre courbe biologique pour vous créer une routine personnelle en fonction de vos niveaux d'énergie. Et alors, j'ai eu l'occasion d'appliquer ce modèle et perso, ça a complètement changé ma manière de bosser. J'ai eu de meilleurs niveaux de concentration, j'ai eu plus de motivation, plus de créativité, j'accomplis beaucoup plus. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez sûrement remarqué avec tout ce que j'ai lancé sur le podcast récemment. Et j'ai même pu reprendre des activités que j'avais laissées de côté depuis un moment. Alors évidemment, je vous recommande ce programme à 200%. C'est une formation vidéo en ligne sur 7 jours qui va vous apprendre à hacker votre cerveau pour en faire plus en moins de temps et pour vous dégager un maximum de temps libre. Et pour vous aider à franchir le cap, je vous ai négocié une réduction de fou furieux. Vous avez droit à moins 50% sur la formation et c'est uniquement pour vous les auditeurs du podcast. Alors pour récupérer le programme à ce tarif, vous allez sur biomecaniquepodcast.com/routine. R-O-U-T-I-N-E. Et il n'y a que sur cette page que vous pouvez l'avoir à ce prix. Et tout est expliqué dessus. Mais attention, la promo dure uniquement jusqu'au 21 avril, c'est-à-dire dimanche prochain. Et alors attendez, c'est pas fini, parce que Jérémy s'engage personnellement à vous rembourser jusqu'au moindre centime si vous ne voyez aucun résultat sur votre productivité dans les 14 jours après avoir passé commande. Alors si avec ça vous n'êtes pas convaincu, je peux plus rien pour vous. Je répète une dernière fois, le programme Routine Haute Performance à moins 50%, c'est sur biomecaniquepodcast.com/routine. Et puis si vous écoutez le podcast sur Spotify actuellement, c'est encore plus simple. Vous pouvez retrouver le lien cliquable tout en haut dans la description de l'émission. Voilà, ça se termine dimanche prochain, le 21 avril. Alors foncez et maintenant, place à l'épisode. Côté aussi... Voilà, bon, ben on est lancé, on est parti avec Joséphine Tribalo aujourd'hui sur le podcast. Bonjour Joséphine.
Bonjour.
Bon, ça fait plaisir. Déjà de un, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de femme sur le podcast. Alors ça, je vais être obligé de le répéter à chaque fois, mais j'invite des femmes à passer sur le podcast parce qu'il y en a plein qui ont plein de trucs intéressants à dire dans le milieu de l'entraînement. Aujourd'hui va être un sujet encore va être spécifique, ça va être hyper intéressant, mais je reçois malheureusement peu de réponses. Donc, si vous avez directement, je fais un appel à l'action avant de démarrer directement ce podcast. Si vous avez des recommandations, envoyez-moi par mail, hein, contactez-moi, ou s'il y a des personnes qui des femmes qui sont désireuses de passer dans le podcast ou de partager leur expérience. On tourne autour du sport, de la santé. Prenez contact parce que je ne veux pas paraître misogyne dans mes invités, évidemment. Bon. cette intro mise en place, aujourd'hui ça va être un sujet assez marrant et surtout différent de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je tourne souvent autour de l'entraînement, de la santé, de la musculation, du bodybuilding. Vous connaissez mon attrait pour l'hypertrophie. J'adore avoir des bodybuilders. Il y en a eu, il y en aura d'autres, évidemment. Et puis des fois, on va dans des sujets un petit peu différents. Aujourd'hui, ça sera le cas sur le cirque, la contorsion, le contorsionnisme, tout ça. Des trucs qui sont assez fascinants. Quand on voit ça, on se dit c'est dingue. Et on va en discuter aujourd'hui avec Joséphine. Okay. Je vais te laisser te présenter pour démarrer, comme j'ai l'habitude de faire avec mes invités.
Ça va.
Puis voilà.
Ok, bah, je m'appelle Joséphine Triballo, je suis artiste de cirque professionnelle depuis octobre 2020, donc c'est assez récent finalement. Ma discipline, ma spécialité vraiment, c'est les équilibres sur les mains et la contorsion. Je dis pas les équilibres tout court, parce qu'en fait les gens ils associent beaucoup ça au funambulisme, sur du fil, etc. Mmh. Et moi je fais vraiment ce qu'on appelle, oui, des équilibres sur les mains, donc pour vulgariser, appui tendu renversé en gymnastique, ATR.
Ouais, le poirier, quoi.
Exactement, on peut dire, voilà, si on vulgarise, c'est ça. Et sauf que l'intérêt de cette discipline, c'est de rester en fait en endurance et avec des figures. Ce qu'on retrouve beaucoup dans le street, chez les street workers, ça se dit, oui.
Je sais pas comment on dit, je suis désolé.
Les personnes qui font des équilibres dans la rue, sur des barres parallèles, etc., qui travaillent beaucoup des figures à l'envers. Et en fait, c'est une discipline de cirque et assez souvent, c'est lié à la contorsion. Pas systématiquement, mais en ce qui me concerne, ça l'est. Donc, voilà.
Bon, voilà, artiste de cirque, contorsion, ça, on va parler de tout ça. De l'entraînement, comment on fait aussi pour s'entraîner concrètement pour arriver à faire ces choses-là. Et alors, quand tu me dis professionnel depuis 2020, donc il n'y a pas si longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une accréditation comme quoi tu es pro, ou ça veut dire qu'avant, c'était pas sérieux?
Ouais. En fait, je dis professionnel parce que j'ai fait 5 ans d'école pour ça. En fait, il existe des formations en France et à l'étranger aussi. D'ailleurs, à Montréal, il y a une très bonne école. Finalement, on en retrouve partout. Et en fait, j'ai fait 2 ans d'école préparatoire et c'est sur concours. Et ensuite, je suis rentrée en école supérieure sur concours aussi pendant 3 ans. Et c'est une formation professionnalisante. Donc, en fait, en vérité, il y a des écoles qui dispensent d'un diplôme officiel. Là, c'est pas le cas. Enfin, comment dire, on a une sorte d'agrégation, comme quoi on avait bien effectué la formation. Mais si tu veux, dans le milieu, ce qui compte, c'est pas vraiment le diplôme, c'est tes compétences.
Oui, comme beaucoup.
En fait,
ouais,
quand tu passes des auditions pour des spectacles ou quand voilà, tu dois monter un spectacle ou un numéro, ce qui va avoir de l'intérêt, c'est tes facultés, que tu aies fait une école ou pas d'ailleurs. Donc on peut très bien être professionnel sans avoir fait d'école.
Et alors, bon, ça veut pas dire que t'es vraiment compétente depuis l'année dernière, quoi. C'est un long parcours, un long process avant que tu te lances dans les études, pour finir par avoir ce diplôme. T'étais là-dedans. Enfin, je veux dire, comment t'as découvert le cirque et que tu as voulu en faire ton métier, quoi?
En fait, moi, j'étais gymnaste de haut niveau plus jeune. J'ai commencé à 3 ans, plus ou moins. Mais vous savez, enfin, c'est toujours baby gym un peu. C'est plutôt de la recherche de mobilisation du corps, etc., quand on est tout petit. Et puis après, j'ai fait de la compétition plus sérieusement. J'ai été titrée plusieurs fois. Et en fait, j'ai arrêté vers l'âge de 16 ou 17 ans parce que je voulais me concentrer un peu sur mes études. À ce moment-là, je rentrais à l'internat dans un bac art appliqué, design. Et c'était compliqué en fait de quitter la région, d'être en internat et de poursuivre en fait mon entraînement en gym. Et puis j'étais un peu frustrée artistiquement entre guillemets parce que je trouvais que la gymnastique était très très technique et j'avais besoin de rentrer dans un milieu où tout le monde avait sa place, où j'étais pas systématiquement comparée à quelqu'un d'autre sur des figures techniques. Donc, à la suite de ça, j'ai passé un bac en art appliqué. Et puis, je voulais déjà faire du cirque. Je me rappelle que j'avais vraiment l'envie de faire ça, mais j'avais beaucoup d'a priori. Je me disais que vraiment, il fallait être né dans une famille de cirque, qu'il fallait faire partie d'une famille ou d'une troupe depuis tout petit pour pouvoir y avoir accès. Et donc, je me suis pas penchée plus que ça sur le sujet. Et à défaut, je suis devenue costumière à Paris. Donc, j'ai passé un diplôme des métiers d'art costumière réalisateur. J'ai travaillé un petit peu à l'Opéra Comique, au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris.
Et en là, fait, tu faisais quoi en fait? T'habillais les acteurs et actrices?
Je réalisais les costumes, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est au travers de ce métier-là que j'ai rencontré une compagnie qui s'appelle la Compagnie Morales, qui m'a dit non, mais en fait, il existe des écoles. Ils m'ont informé, ils m'ont dit t'es encore suffisamment jeune pour tenter les concours. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit qu'avec mes bases de gym, peut-être que ça pourrait fonctionner. Puis accessoirement, enfin à côté, je faisais encore du théâtre, la comédie musicale. Je faisais aussi du cirque plus loisir sur le temps libre que j'avais. Et donc, j'ai passé le concours de la prépa et je suis rentrée comme ça. Et donc, après la vie, la route, et puis maintenant mon métier.
Ok, bon. Alors, il y a combien de disciplines dans le cirque? Parce que, ou alors, est-ce qu'il y en a des principales? Moi, là, je vais faire vraiment le novice absolu, quoi. Moi, je pense à les contorsionnistes, je pense aux clowns, et je pense à ceux qui marchent sur un fil en haut et il y a le tapis en bas. Mm-hmm. Voilà.
Il y a énormément de disciplines. Il y a des disciplines. En fait, c'est marrant parce qu'il y a même parfois des modes de des modes dans les disciplines. Il y a parfois des époques où on retrouve plus certains types que d'autres. Mais pour être plus concrète, je vais essayer de toutes les citer. Donc, les équilibres et la contorsion, en ce qui me concerne, il va y avoir les portées acrobatiques. C'est de la ce qu'on peut appeler de la voltige en main à main. Je sais pas si tu vois un peu ce à quoi ça peut ressembler. Il y a un porteur, souvent relativement costaud, et un voltigeur ou une voltigeuse, souvent un peu plus fluet.
Pour ouais, que ça c'est au sol, hein.
Oui, ça c'est au sol. Mais il y a aussi, ça peut être lié à la bascule. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une espèce de grande planche inclinée. Avec un axe de rotation ici, et on peut faire des portées acrobatiques avec ce type d'outils également. Il va y avoir tout ce qui est la jonglerie, évidemment.
Évidemment.
Les aériens, donc le trapèze, le tissu, les sangles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes collègues vont me tuer parce que je suis sûre que je vais en oublier. Alors le clown, c'est une discipline, c'est vrai. En fait, c'est même un métier vraiment à part, quoi. Là, pour le coup, il y a même des écoles de clowns. Pour le coup, il y en a aussi des très bonnes à Montréal. On aura
ça,
beau.
C'est dingue.
Oui, on
une
pense.
École de clown, quoi.
Oui, on pense beaucoup au clown d'anniversaire et ce genre de caricature quand on pense au clown. Mais en fait, c'est vraiment un type extrêmement spécifique de jeux d'acteurs, si j'ose dire, et ça s'apprend aussi. Et c'est très sérieux, en fait.
Ok, mais c'est quoi? C'est de la comédie, parce que c'est faire la base d'un clown. C'est, il est là pour faire rigoler, pas que. Attention, je vais me parler. Direct, je dis peut-être une grosse connerie, hein, mais il y a une grosse part de comédie dans le clown, quoi, de faire
complètement.
De faire le clown, justement.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est délicat pour moi d'en parler parce que c'est pas mon métier, donc je suis pas la plus
okay.
compétente
non, mais on
la
va pas,
pour
oui,
en parler
sûr.
Mais oui, c'est il y a une part oui de comédie, tout à fait, et puis parfois on peut, il y a plusieurs catégories de clowns et on peut parfois faire du clown sans avoir besoin de porter un nez, et parfois un nez de clown, j'entends, et parfois l'inverse, donc voilà, mais je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus parce que pour le coup vraiment j'aurais peur de dire des bêtises. Et voilà.
Ok, d'accord. Non, mais c'était. Alors, le clown, les portées, tout ça.
Les portées, les aériens, voilà. Je crois que j'en ai pas. Bah après, il y a des disciplines aussi qu'on pratique. Enfin, que moi j'ai pas vu pratiquer en école, mais il y a les disciplines de feu aussi, cracheurs de feu, etc., qui sont plus relatives à un cirque traditionnel. Il y a des disciplines, voilà, qui sont aussi très traditionnelles qu'on retrouve moins maintenant. Même le dressage, en vérité, on n'en parle pas, mais c'est-à-dire que le dressage des animaux, c'est quelque chose qui existait dans le cirque traditionnel, qui s'est perdu au fur et à mesure du temps. À titre personnel, je trouve que c'est une bonne chose, mais...
Oui, ben ça a beaucoup été un combat aussi,
oui, voilà.
L'utilisation des animaux dans le cirque.
Ouais.
Les véganes et tout sont les véganes. Je sais pas pourquoi
je suis pas végane, mais je suis quand même contre. Mais...
Oui, non, mais quand je dis les véganes, c'est vrai que j'englobe tout le monde, genre en gros les défenseurs des animaux. Ça a c'est été ça. Un combat.
Ouais. Encore que on retrouve aussi beaucoup de dressage de chevaux dans les cirques et c'est pas du tout la même c'est pas du tout le même sujet en fait, à vrai dire, parce que en l'occurrence ils sont pas traités de la même manière que les bêtes qui sont retirées de leur habitat naturel comme les fauves ou bien les ours ou voilà.
C'est-à-dire.
Bah c'est beaucoup plus respectueux la plupart du temps le dressage des chevaux dans le milieu du cirque c'est bien moins violent que ce qu'on peut retrouver avec malheureusement les ours et les tigres quoi.
D'accord. Bon, j'en profite pour rappeler que j'ai absolument rien contre les véganes. Bien au contraire, j'ai enregistré des épisodes avec des véganes. D'ailleurs, je recommande Blouson au sommet. Je sais pas si tu l'as écouté.
Ah oui, je connais, ouais.
Celui-là, qui est, voilà, maintenant qui est végane et puis. Et puis qui soutient en plus, parce qu'il a pour intention d'ouvrir une association, enfin, un refuge pour animaux. Donc, j'ai rien contre les véganes et j'ai toujours, des fois, je vais au plus rapide en disant c'est les véganes qui gueulent.
Il n'y a pas que
les véganes. Jérémy Pigeon aussi, un des premiers épisodes où j'avais parlé de véganisme et est-ce qu'on peut être musclé, balèze, est-ce qu'on peut augmenter améliorer ses performances, être plus balèze, plus musclé, plus fort, ceci, cela, en restant végane. Donc, un épisode vraiment intéressant là-dessus aussi. C'est dans les tout débuts, hein, donc j'étais peut-être un peu moins à l'aise au micro. Attends, je voulais rebondir sur un truc quand même, parce que ça, c'est une anecdote. Bordeaux, 2012, 2015, je sais plus exactement. Est-ce que tu te souviens, t'as entendu parler de l'affaire de Serge Le Lama, des étudiants à Bordeaux, parce qu'il y a un cirque qui va régulièrement à Bordeaux et il y avait des étudiants un soir qui avaient volé un lama à l'intérieur des cirques et qui l'avaient fait prendre le métro à Bordeaux.
Oh non, quelle blague! Non, c'est catastrophique. Mais il y a même des histoires d'éléphants qui se sont enfuis de cirque, qui ont fait
Mais ça, c'est grave, ça.
Appeler ça comme ça des burn-out ou des lions aussi, qui se sont retrouvés en pleine ville. C'est catastrophique, enfin, pour le coup.
Non, mais alors, oui, quand je dis c'est grave, ça peut créer du dégât. Là, pour le coup, c'était une histoire assez incroyable où il n'y avait eu aucun dégât et finalement, tout était bien rentré dans l'ordre. C'est juste que ça avait fait la une des journaux et ça avait été un sujet et puis c'était Serge Le Lama et tout le monde s'était dit, mais attends, mais ces mecs sont incroyables. Ils ont été à l'intérieur des enclos, ils ont réussi à ouvrir la porte, je sais pas, de choper un lama, le faire prendre le métro. C'était fou. Et le lama,
ils ont peur d'un
très bien. Ouais. C'est dangereux, lama?
Je pense au propriétaire, moi surtout, qui peut être un peu plus dangereux peut-être, mais
ah oui, ouais, effectivement. Mais alors toi, tu dis qu'ils sont pas autant les chevaux d'élevage sont pas forcément maltraités. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Mais les autres animaux qui sont utilisés au cirque en général, c'est pas génial. Tu parlais des félins.
C'est difficile de généraliser parce qu'il y a toujours du mauvais et du moins mauvais. C'est vrai que je vais donner un exemple, mais j'ai déjà vu des vidéos où les oursons, pour les faire tenir debout sur leurs pattes arrière, en fait on les attachait au niveau du cou contre un mur pour qu'ils se tiennent debout, sinon ils s'étranglaient. Et finalement, ceux qui s'étranglaient, c'était un peu la sélection naturelle du cirque, et puis on les gardait pas pour les numéros, quoi. Et ceux qui restaient debout pouvaient donc se tenir debout sur une piste. C'est terrible, mais malheureusement, c'est
difficile. Ouais. D'autres, c'est en train de diminuer de plus en plus, là, comme tu le disais, là, ça se fait de moins en moins. On en est où, là, toi, de comme t'es dans le milieu? Qu'est-ce que tu remarques? Il y a bientôt plus d'animaux?
Alors, c'est marrant.
Ou alors, ils sont moins maltraités?
En fait, moi, je gravite pas du tout dans le milieu du cirque traditionnel. Je fais partie plus du cirque, ce qu'on appelle le cirque contemporain. C'est-à-dire que je suis dans un milieu qu'utilise le cirque et qui le mélange à d'autres formes d'art comme le théâtre, la danse contemporaine, le hip-hop, la danse classique. Et tout ça. Et donc, en fait, si tu veux, ce type de cirque, ce type d'art vivant, c'est pas un art qu'on retrouve uniquement sous les chapiteaux. On peut nous trouver aussi dans des salles de spectacle, des cabarets, en rue. Ça a beaucoup évolué, en fait, depuis le cirque traditionnel. Vraiment. Donc, pour le coup, finalement, moi, j'ai jamais travaillé c'est les croquettes du chat qui tombe. j'ai jamais travaillé en fait dans un cercle traditionnel à proprement parler.
D'accord.
Donc voilà. Après, je me garderais bien d'avoir un avis certain sur les cercles traditionnels qu'utilisent les animaux. Hein. J'ai jamais vu. Si, j'ai déjà vu des animaux dénutris. Hein, ça se voit. Un lion qui est tout maigre ou un tigre qui est tout maigre sur une piste, tu vois bien que a priori, il y a quelque chose qui va pas. Mais après, moi, de mes yeux, j'ai jamais vu de maltraitance. Mais ça se sait. Enfin, on n'est pas dupes. Mm. Voilà, mais bon, je travaille pas dans ce type de structure, du coup.
Ok. Alors, j'imagine que parmi les disciplines là que tu as citées tout à l'heure, alors on va revenir. Putain, je me le note parce que j'ai des idées qui me viennent évidemment, donc faut que je me rajoute pour pas oublier. Selon les différentes disciplines là, c'est pas la même façon de s'entraîner, c'est pas la même façon d'aborder le truc, c'est les mêmes compétences physiques. Alors toi, tes spécialités exactement, et qu'est-ce que ça demande comme compétences physiques ? Et après, on discutera peut-être de comment on y arrive à aller jusque-là, quoi.
Tu veux savoir comment je m'entraîne, par exemple ?
Par exemple, selon tes spécialités, t'as besoin de quoi ? D'être forte, d'être... Alors, contorsionniste, bon, t'as souple, évidemment.
Ça, c'est clair. C'est marrant parce que finalement, c'est une discipline qui est assez... un peu contradictoire, parce que t'as besoin d'être, pour la contorsion, d'être souple à l'extrême, quelque part. Et en même temps, pour les équilibres et l'endurance, tenir sur les mains le plus longtemps possible, enchaîner les figures sans en tomber. Là, t'as besoin de force, d'endurance. Et en fait, même pour te protéger, en fait, pour te protéger de toute la souplesse dont t'as besoin, pour renforcer tes articulations, t'es obligé de construire du muscle, quoi. Enfin, en tout cas, oui.
D'avoir une base solide.
Exactement, d'avoir une base solide. Et après, je dirais que chaque artiste, c'est pas des disciplines qui sont rentrées dans des livres, comme la musculation, je veux dire. La musculation, on a de Lavier, on a quand même des grands pontes qui ont posé des choses. Il y a des théories, voilà. Alors que dans les disciplines de cirque, on a très peu étudié ça, en fait, la façon de s'entraîner des circassiens. Et donc, il n'y a pas la méthode. La méthode que moi, j'ai, c'est celle que ma prof m'a enseignée en école supérieure et que j'ai adaptée aussi à mon corps. Mais je vois bien, par exemple, que d'une personne à l'autre, moi, je ne fais pas exactement la même préparation physique que certaines collègues. On travaille pas les mêmes exercices de souplesse non plus, parce que on sent, il y a beaucoup de choses qui se font à l'écoute, surtout dans la souplesse. La souplesse, c'est quelque chose de très spécifique et qui se fait énormément à l'écoute. Tu peux pas forcer comme un bourrin sur un grand écart parce que t'as envie d'avoir ton grand écart, et il y a un moment où tu es obligé de t'écouter. Et puis aussi, il y a la biomécanique. mine de rien, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus facile d'avoir un grand écart latéral qu'un grand écart facial. Ça se travaille. Aussi.
T'avais entendu le podcast avec alors on va rappeler que t'écoutes régulièrement le podcast, donc ça c'est super. Hein. donc c'est pour ça que je me permets de lui poser des questions. Celui avec Christophe Cario. Bon, parce qu'on parle de la souplesse, et justement, comme lui, il vient du karaté, on a parlé de Van Damme, tout ça, et je l'avais demandé, est-ce que tout le monde est capable de faire un grand écart? Et il y avait, je me demande si on n'avait pas discuté avec Delavier ou Mike
Gundil. Oui, ou Gundil. Je crois que c'est avec Gundil qu'on avait parlé.
Voilà, sur la souplesse, si tout le monde pouvait faire un grand écart. Non, ça dépend de la conformité articulaire. Si ton acétabulum est couvrant, il n'est pas couvrant.
C'est un grand débat. Parce que, en fait, si je dois parler de science, j'ai envie de dire non. Mais si je dois parler d'expérience, j'ai envie de dire oui. Alors...
Ça y est, ça commence. Met tout le monde à dos.
Vas-y. Ça y est. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est délicat, mais dans les écoles dans lesquelles j'étais, toutes les personnes qui n'avaient pas leur grand écart, au bout de 2 ans, quand même, l'avaient. Alors avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de souffrance, mais en fait, avec le temps et la régularité, il y a vraiment un progrès qui est dingue. Mais la plupart des gens, pardon, hein, mais qui veulent avoir leur grand écart, ou qui disent que c'est pas possible, ne le tente pas, ne l'expérimente pas avec assiduité. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Parce que c'est long et chiant, en fait. Enfin, faut être hyper patient et
mais est-ce que peut-être ceux qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, sont partis, et finalement, ceux qui restent au bout de 5 ans, comme tu dis, ce sont déjà ceux qui avaient le potentiel d'y arriver?
Alors voilà, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de préciser aussi, c'est que, à mon avis, enfin, en tout cas, il y a forcément dans tous les sports d'ailleurs une espèce de sélection naturelle qui se fait, et je pense que si à un moment donné le grand écart ça fonctionne pas sur toi, tu t'acharnes pas non plus comme un fou quoi. Enfin moi je vois bien qu'il y a certains trucs que je pense pas pouvoir avoir techniquement, et c'est vrai que à la fois je m'acharne pas dessus, et en même temps même en m'acharnant je suis pas sûre de les avoir non plus, donc c'est compliqué.
Tu l'as eu tôt ?
Alors, mon grand écart ?
Ouais.
C'est marrant parce que, je l'ai eu tôt. En fait, un grand écart, c'est-à-dire le bassin au sol, oui, je l'ai eu quand j'étais gymnaste. Après, je l'ai perdu. Je l'ai acquis de nouveau quand j'étais en prépa. Puis, en fait, maintenant, finalement, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi souple que maintenant dans ma vie. Et donc du coup j'ai mon grand écart mais j'ai mon grand écart en négatif, enfin tu sais, je sais pas comment expliquer ça visuellement, c'est à dire que ça c'est un grand écart au sol et je peux mettre tes jambes plus en hauteur et avoir le bassin toujours par terre.
Ouais,
donc en fait avoir son grand écart, tu peux l'avoir de plein de manières, ton grand écart, si tu veux.
Ben oui, mais j'entends par grand écart le fait de toucher le sol quoi.
Ouais, c'est ça.
Et alors c'est plus difficile comme ça. Alors comme ça, ceux qui écoutent voient pas, mais c'est plus difficile d'avoir les jambes sur les côtés plutôt que en ciseaux, c'est-à-dire avec une jambe en avant et l'autre en arrière.
Ça dépend. Ça dépend pour qui. Alors on dit souvent que les garçons ont plus de facilité avec le grand écart latéral, c'est-à-dire avec une jambe devant et une jambe derrière, parce qu'ils ont le bassin plus fermé. Et on dit souvent
que
les femmes
pour ouvrir sur les côtés.
Voilà, ont plus de facilité avec le grand écart facial parce qu'elles ont le bassin plus ouvert. Mais ça ne m'a jamais empêché de rencontrer des hommes et des femmes qui avaient les deux types de grand écart sans difficulté. En tout cas, à force de travail, ça c'est clair. Je peux pas dire que tout le monde peut avoir son grand écart, mais ce que je peux dire, c'est qu'en travaillant sa souplesse, quoi qu'il arrive, on progresse. Ça, c'est certain.
Ok. Et alors toi, comment tu l'as travaillé, si tu te remémores le moment où tu l'avais pas trop, où tu l'as eu perdu à un moment et que tu as dû passer par un schéma, je sais pas, une planification, j'en sais rien, d'entraînement, d'assouplissement pour pouvoir l'obtenir. C'est quoi que tu as mis en place ?
Alors je me rappelle que j'utilisais un élastique que je mettais, un grand élastique que je plaçais au niveau de mes pieds. Il passait dans mon dos et je restais assise avec les jambes écartées et cet élastique en tension. Je ne sais pas si je suis très claire sur la description orale de ça. C'est-à-dire un élastique tendu d'un pied à l'autre qui passe par le dos. Et donc, d'accord, assis en grand écart. Ça, c'était une façon déjà de le travailler. Après, sinon, je me rappelle que je me mettais en grand écart, je me mettais allongée contre le sol, les jambes contre un mur, et j'écartais les jambes avec des poids sur les chevilles.
Ah oui, ok.
De manière à ce que, en fait, avec le poids, ça descende petit à petit, mes pieds descendent petit à petit vers le sol. Et je restais comme ça. Alors, c'est marrant parce que des fois, au début,
c'est un peu de la torture, ce truc, quoi.
Mais non, parce qu'en fait, au début, oui. Je peux pas dire. Au début, enfin, c'est pas de la torture, c'est que ça... Oui, bien sûr, ça fait mal au début.
Moi, je me mets alors, comme tu le précisais, c'est assise, mais allongée au sol, c'est-à-dire les fesses au même niveau que les pieds, avec cet élastique comme ça qui tire, j'ai l'impression de me faire écarteler, quoi.
Non, en fait, c'est juste que, après, il y a plein d'autres exercices de mobilisation avant d'en arriver là, évidemment. On n'est pas obligé de passer au grand écart tout de suite de but en blanc. Évidemment qu'on peut d'abord s'assouplir les quadriceps, les ischios, ne serait-ce que travailler la fermeture, ça travaille toutes les chaînes postérieures. Donc ça aide pour le grand écart. On oublie souvent ça d'ailleurs, que en fait travailler les
quand
isolés.
Quand tu travailles la fermeture, c'est-à-dire ?
Ah, la fermeture quand tu te penches en avant pour toucher tes pieds, pareil.
Ok, donc tout ce qui est la chaîne postérieure, oui, les dorsaux, les fessiers, les ischios, essayer d'assouplir tout ça.
En fait, on oublie souvent de travailler isolément, de façon isolée plutôt, de façon isolée les muscles. On le fait en musculation, c'est marrant parce que on le fait en musculation, mais on oublie que pour la souplesse, on peut le faire aussi en fait. On n'est pas obligé de faire un grand écart comme ça et d'attendre que ça passe, que on finisse par l'avoir en souffrant. En fait, on peut préparer le corps à travailler le grand écart. Ouais, je me souviens de ces exercices-là en tout cas. Et c'est vrai qu'au début, en fait, ce qui fait mal, c'est d'être crispé. Vraiment, ce qui fait mal, c'est d'aller contre la douleur. Alors que l'idée, en tout cas, j'en ai l'impression, c'est de l'apprivoiser, de respirer, de relâcher. Et moins on est crispé et plus on est détendu et plus on s'assouplit, plus moins c'est difficile en fait de travailler la souplesse.
Ça veut dire qu'il faudrait le faire je me prends souvent comme exemple, ou même les auditeurs là, s'il y en a certains qui veulent travailler ce grand écart, je me dis je suis pas souple hein, comme beaucoup de gars, comme beaucoup de personnes tout court. Je fais pas trop d'exercices d'assouplissement, je m'étire quand j'y pense. Combien de fois par semaine, combien d'heures, comment je procède? Sachant que peut-être que je n'y arriverai jamais. Confaire le podcast avec Gundil, où ça se trouve, j'ai un acétabulum qui est pas du tout concordant par rapport à ça. J'ai pas assez d'ouverture de hanche, j'ai une limitation. Bref, je veux quand même progresser et essayer de m'assouplir et de tendre vers le grand écart.
Et moi, je vais pas m'amuser à contredire Gundil, si tu veux. Donc,
c'est ce qui te répondra.
J'en ai rien à foutre. L'idée, je pense que la clé vraiment de ça, pour avoir donné des cours aussi, c'est la régularité. Donc déjà, en fait, pour gagner en souplesse, mais j'ai même pas envie de dire souplesse, mais déjà la mobilité chez la plupart des gens, la mobilité, ne serait-ce que ça, la travailler un petit peu tous les jours, mais ça peut être 10 minutes en sortant de son lit, ne serait-ce que s'étirer, que de prendre le temps de s'allonger, d'allonger tout l'ensemble de ses chaînes musculaires. C'est déjà quelque chose. La plupart des gens, je crois, sortent de leur lit, s'habillent, et prennent vite fait leur petit déjeuner et partent travailler. Et en fait, et ne prennent pas conscience de leur corps. Alors que, en fait, lorsqu'on sort d'une nuit, c'est pas anodin pour le corps. Il faut, à mon sens, prendre le temps déjà de le réveiller. Et du coup. Déjà, la mobilité, c'est quelque chose qui devrait être inscrit dans le quotidien, à mon sens. Et ensuite, juste, la souplesse, c'est l'étape.
On peut peut-être, parce que voilà, là, t'allais venir sur la souplesse, mais essayer de différencier donc mobilité, souplesse. Toi, comment tu parce que si je te dis oui, mais ce que tu me dis, c'est de la souplesse. Tu vois, quand tu parles de mobilité, tu parles de quoi exactement? Et de la souplesse pour différencier, parce que on peut avoir même, j'ai déjà entendu des discours, hein, et ça ne veut pas dire que je suis contre l'un ou l'autre, que souplesse et mobilité sont en fait la même chose et que tu ne peux pas séparer l'un et l'autre.
Ah ouais, mais
c'est quoi ton opinion là-dessus, quoi? Et quand tu parles de mobilité, tu parles de quoi, et de souplesse ensuite, tu parles de quoi exactement?
Je dirais, en fait, finalement, je crois que c'est parce que, à mon sens, la mobilité, c'est l'étape avant d'aller vers l'assouplissement. C'est-à-dire que, pour moi, la mobilité, ça va être à la fois tout ce qui va être mouvement ostéo-articulaire, ne serait-ce que, je sais pas comment expliquer ça, bouger ses articulations de façon à activer le liquide synovial, etc. Tout ça, pour moi, c'est de la mobilité. Et même se pencher en avant, respirer, essayer d'aller toucher le sol, ses pieds ou ses genoux, peu importe son niveau. Là déjà, on rentre dans de la souplesse quelque part. Enfin, et en fait, c'est marrant parce que c'est juste qu'on associe la souplesse à des mouvements très spécifiques comme le grand écart ou le.
Alors pont, qu'il y a de la mobilité aussi dedans.
Et bien sûr, oui, c'est clair, parce que.
Ouais. Non, mais
on pense souvent à ça, mais on oublie beaucoup les torsions aussi du corps. On voit beaucoup de choses sur un plan très frontal, je trouve, et on en oublie en fait de travailler toutes les torsions qui sont nécessaires pour la mobilité du dos, etc.
Ok. Alors, bon, on a fait un petit peu de mobilité le matin pour essayer de se réveiller. Alors, mon avis un petit peu plus personnel là-dessus, c'est que c'est vrai que j'assimile un petit peu plus la mobilité à tout ce qui va être de l'ordre de l'articulaire et la souplesse. Mm-hmm. Je vais plus le voir sur le tissu mou. Bon, même s'il y a toujours un lien entre les deux, mais parce que par exemple le ligament, c'est un tissu mou. Bon, mais ça fait partie de l'articulaire. Et le muscle, je vois plus. Bon, on va pas rentrer dans ce détail-là. Je crois que j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai dans notamment la newsletter. Tu sais quoi, je vais faire le petit appel à l'action là pour tous ceux qui veulent s'inscrire à la newsletter du podcast. Allez-y, c'est le premier lien de description. Voilà, donc une fois par mois, je partage une idée, un concept, une actualité, des projets, news, enfin peu importe, mais c'est toujours un lien avec la compréhension du corps, le muscle. La dernière fois, j'ai parlé de muscles spécifiques dans le corps, l'autre fois c'est du mécanisme de la respiration, etc. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous inscrire comme ça quand j'ai des petites choses à partager sur la mécanique du corps, sur améliorer sa santé, son entraînement, c'est là-dessus que je les donne plus que sur les podcasts où on est davantage dans la conversation et dans l'invité en question. Cette parenthèse étant fermée, comment on continue alors de travailler ce grand écart une fois qu'on a fait nos mobilités du matin? Ça c'est ouais. Bon, c'est réglé.
Ça marche. En fait, ça risque aussi de dépendre. C'est marrant parce que tu dis ça. C'est comme si tu dis à quelqu'un, OK, comment je progresse en musculation? Bah, OK, il y a peut-être beaucoup de choses à. J'ai besoin de savoir en fait. Est-ce que t'as du retard? Est-ce que t'es plus tendu d'un côté que de l'autre? Où est-ce qu'on en est en fait? Parce que
oui, bien
par
sûr.
Exemple
c'est
en musculation ça parle tout de suite plus parce qu'on se dit on voit vite les points forts, les points faibles et comment on va pouvoir adapter un programme. En fait les assouplissements quelque part c'est un peu pareil parce qu'il y a des personnes qui sont naturellement plus souples d'un côté que de l'autre, hein, de droite ou de gauche, ça dépend, et puis aussi plus souples d'un certain type de grand écart, en l'occurrence le facial que le latéral, etc. Donc c'est pas comme ça, je peux pas te sortir une clé magique pour avoir son grand écart, mais
admettons combien de fois je vais devoir travailler
moi je dirais que honnêtement déjà un bon trois fois par semaine 30 minutes ça serait bien, tu vois.
Okay.
Ça peut sembler
uniquement uniquement dédié à l'assouplissement, l'étirement,
ouais,
des tissus,
ouais. Après, il y a toujours ce grand débat avant, après la musculation, début, fin de journée, et à quel point. En fait, il faut. Tout dépend aussi des objectifs qu'on se donne. C'est vrai que je pense que les étirements de grande amplitude avant un effort de force sont pas toujours les bienvenus. C'est pas toujours. Enfin, je crois que c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. En revanche, plusieurs heures après un entraînement de musculation, à mon sens, c'est pertinent. Si ça fait partie des objectifs, on va dire, si un Jean-Claude Van Damme se présente et qu'il se dit, voilà, je vais être à la fois fort mais à la fois souple, j'en rencontre pas beaucoup, mais ça arrive, à mon sens, c'est plus stratégique de mettre les séances d'étirement de grande amplitude écartées des séances de musculation.
Oui, bah alors ça rejoint les dernières trouvailles, les dernières études, ce qui se dit. Je renvoie à l'épisode que j'avais fait avec Aurélien Broussal d'Herval, que peut-être, je sais pas si tu l'as entendu,
oui,
là, mais
écouté,
on a bon, allez, tout écouter. Tant mieux. Faites
il
pareil,
faut des
pareil.
Trucs à écouter pendant le cardio derrière.
Ok, bah, putain, c'est pour ça que je l'ai fait de plus en plus long. C'est pour tous ceux qui
c'est clair.
Pour les cardio. On avait parlé de un petit peu de tout ça là, l'étirement. On avait circulé un bon moment sur quand est-ce qu'il faut s'étirer. Et puis j'avais essayé de bazarder un petit peu toutes mes questions et toutes les interrogations. Donc avant, après, pendant, comment, pourquoi. Toutes les réponses, quasiment toutes, sont dans le podcast que j'ai fait avec Aurélien. Épisode dans les 25. Dans les 30 premiers épisodes de biomécanique, je saurais pas vous dire le numéro, j'irai le retrouver là. Donc effectivement, le consensus c'est éviter juste avant un entraînement musculaire, juste après ça n'a pas grand intérêt physique. Le mieux c'est si on veut s'assouplir, si on veut s'étirer, de faire des séances entre les séances de sport et de considérer ça comme une séance d'entraînement à part entière, une séance d'entraînement d'assouplissement.
Voilà, et encore une fois, ça dépend toujours des objectifs de chacun. On est bien conscient qu'il faut libérer du temps pour ça et que voilà, si c'est une priorité, vous trouverez le temps. Si ça l'est pas, vous l'aurez pas et c'est pas grave. Voilà, personne n'est, enfin je veux dire, dans la rue, personne ne se jette au sol en disant j'ai mon grand écart. Regardez, parce qu'en fait, ça, personne ne. Enfin, finalement, si vous avez votre grand écart, il n'y a pas grand monde qui le saura. Mais si ça vous plaît à vous de le savoir, de l'avoir, et eh ben c'est tant mieux, c'est fantastique. Après, je tiens quand même à préciser une petite chose, c'est que ça n'empêche pas de s'étirer un peu avant la musculation, enfin avant le travail de force ou d'endurance de force. À mon sens, ça reste intéressant de faire à la fois un peu d'étirement et un peu de mobilité pour faciliter
pour
l'exécution
de la technique muscle.
En musculation. Et
épisode 25, hein, voilà, j'ai retrouvé le numéro, j'étais juste sur ça. Je vous le laisse en description, si vous voulez cliquer dessus, vous allez y accéder. Alors, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, hein, mais dans tous les cas, c'est le numéro 25 avec Aurélien. Ok, bon, pour le grand écart, et puis après, on espère avoir la génétique, et puis ça peut prendre plus de temps en fonction de d'autres. Tu m'as dit 6 mois? Non, qu'est-ce que je raconte? Tu m'as dit combien de temps, globalement?
Je disais, une demi-heure, 3 fois par semaine, déjà, c'est bien.
Ouais, pendant combien de temps?
Après,
pour voir des
résultats. Ça va dépendre des gens. Et c'est toujours pareil, parce que finalement, ça va rassembler un peu ce que tu as pu, les données que tu as pu recenser dans tes autres podcasts, mais vous pouvez travailler tant que vous voulez, votre souplesse. Si, l'hygiène de vie à côté, elle est pas optimale si vous êtes pas suffisamment hydraté, si vous mangez pas assez bien, si vous dormez pas assez. Donc, si vous récupérez pas assez bien, ça pourra prendre 3 ans. Par contre, si à côté, tu optimises l'ensemble des facteurs, peut-être que ça prendra moins de temps que prévu. Mmh. Et ça, c'est comme ça pour tout, en fait, je crois.
Et alors pour être contorsionniste, faut quand même avoir une grande aptitude à la souplesse de base, quoi. Je veux dire, moi, je pense avec tous les efforts possibles, enfin, c'est la sélection doit être rude pour contorsionniste. Et peut-être que je prends ça comme je sélectionne trop, hein. Tu vas me dire, c'est vraiment faire des trucs de fou avec son corps.
En fait, c'est marrant parce qu'il y a aussi plusieurs types de contorsion. Donc il y a des personnes qui sont aussi, il y a des personnes qui vraiment ont une contorsion, par exemple, de dislocation. Ça se retrouve, on retrouve beaucoup ça.
Ah oui.
Dans certaines cultures africaines, pour lesquelles l'utilisation de la dislocation et de la contorsion, c'est.
Quand on parle de dislocation, c'est que tu sors l'articulation, tu sors la tête de son logement pour pouvoir aller au-delà d'une amplitude.
Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que moi, je pratique pas, par exemple. Il y a des types de contorsions, comme celles que je pratique, du coup, qui sont la recherche de la flexibilité à l'extrême, c'est-à-dire avec des grands écarts les plus poussés possibles, mais jamais je ne sors, je crois, mes hanches, je ne déloge jamais mes insertions.
Ça veut dire que t'as quand même une conformation osseuse et articulaire qui te permet d'aller jusque dans les étirements et les amplitudes les plus extrêmes, forcément.
Oui, après, il reste des choses sur lesquelles je sais que je n'irai pas, ou en tout cas, je crois que j'aurai des difficultés. Par exemple, il y a la souplesse du dos aussi. On en a pas parlé, mais c'est une souplesse qui est assez particulière, différente aussi de la souplesse des grands écarts. Elle se travaille différemment et là, il ne s'agit pas uniquement de tendons, il s'agit de la colonne vertébrale. C'est différent. Et on n'est pas toutes souples de la même façon au niveau du dos. Il y a des personnes qui sont naturellement plus cambrées et pour qui c'est entre guillemets plus simple et qui aussi l'exercent en fait. Et il y a des personnes qui sont naturellement souples du dos qui l'exercent très tôt et du coup ça devient très naturel. Il y a des personnes qui l'exercent pas plus que ça et qui se tournent vers la souplesse, le yoga, la contorsion plus tard dans leur vie et pour qui c'est plus difficile. Je crois que je suis un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que par exemple, je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, ma tête ne touche pas mes fesses dans une contorsion maximale. Je dois être à peu près 5 cm ou 6. Et
c'est pas terrible ça, Joséphine, 5 cm, dis donc.
Et je suis pas sûre d'y arriver un jour, en fait, parce que je crois qu'au niveau de au niveau de ma génétique, ça
c'est limité.
J'ai une limite à cet endroit. J'ose espérer que je continuerai de progresser et que peut-être un jour ça arrivera.
Renverser ta colonne, vraiment l'amener dans une pure extension jusqu'à avoir. Imaginez-vous derrière les écouteurs, imaginez-vous partir la tête en arrière ou en tout cas ramener le bassin jusqu'à toucher même 5 cm. Moi, il y a 50 cm, ça sera jamais plus, quoi. Enfin, je dis ça.
Après, il y a des personnes qui sont vraiment, enfin, quand je vois, je suis partie en Chine quelques temps et c'est vrai que là-bas, ils démarrent si jeunes. J'étais dans une classe d'enfants, de bambins, en fait, qui avaient 3 à 5 ans et ils débutaient. Et la souplesse est fabuleuse à cet âge-là aussi. Donc, quand elle est travaillée, c'est fantastique. Mais c'est pas tout à fait la même culture parce que ils deviennent dans ces écoles-là. Souvent, les artistes sont artistes très très jeunes, à l'âge de 12 ans, ils commencent à travailler en fait. Et après, ils s'arrêtent de travailler beaucoup plus tôt que nous en Europe ou ailleurs. Donc, c'est pas tout à fait la même approche. Et on peut pousser le corps bien plus à son extrême quand on est plus jeune que plus tard. En tout cas, si l'objectif, c'est la longévité, si je pourrais toucher ma tête à mes fesses, c'est pas la question, en fait. Bien sûr que je pourrais. Mais je suis pas convaincue de respecter mon corps si je le pousse à ce point, en fait. Et mon but, c'est de travailler. C'est pas de y arriver un jour, de me blesser et voilà, de plus pouvoir travailler.
Mais par exemple, je mettons une position à laquelle je pense, que j'ai déjà vu dans les cirques chez les contorsionnistes, c'est sur le ventre, l'espèce de, on dirait un scorpion, tu sais, avec les deux jambes.
Oui, avec les jambes ici.
Ouais, qui passent au-dessus de la tête et qui viennent de chaque côté de la tête. Mm-hmm. Ça, t'es capable de le faire.
Oui, c'est un classique de la discipline, ouais.
C'est quand même, parce que tu vois vraiment la colonne, comment elle se courbe.
Mm-hmm. Oui, c'est... D'ailleurs, je crois bien que c'est vraiment ce type de figure qui m'a donné envie de faire de la contorsion, parce que je trouvais ça vraiment
alors,
fabuleux.
Alors moi, c'est tout l'inverse. C'est ce genre de figure
c'est tout le
qui
débat.
C'est ça qui est assez drôle. Hein. Je vois ça et je me dis, mon Dieu, comment c'est possible? C'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais moi, jamais je fais ça. J'ai même pas envie de faire ça parce que j'ai trop peur de casser le dos. Mais ça me ferait plus peur que ça m'attirait, quoi. Tu vois?
Oui, je comprends. En fait, il y a vraiment une espèce de dualité de pensée par rapport à la contorsion, parce qu'à la fois c'est fascinant et à la fois c'est un côté extrêmement monstrueux. Et moi, je crois que c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Mais je comprends. En fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont regarder ça avec énormément d'admiration et il y en a d'autres qui vont regarder ça avec beaucoup de dégoût.
Oui, oui.
C'est vraiment très particulier.
Les deux sont pas forcément dissociés. Hein. Tu t'es admiré, mais t'es là, ça te fascine et ça te dégoûte.
C'est vrai.
Quoi.
C'est un peu paradoxal comme discipline. Mais après, c'est ma discipline, donc vraiment je l'apprécie. Mais
c'est peut-être aussi de s'imaginer dans cette même position et le mal qu'on aurait ou l'inconfort dans lequel on se sentirait.
Je crois que c'est le fait de transposer.
Ouais. T'as vu l'exorciste?
Tout le monde m'a parlé de ça. Oui, bien sûr.
Bon, voilà, moi qui pensais être original, même pas. Évidemment, parce qu'il y a une scène, pour ceux qui ne l'ont pas vue, en fait, elle marche, je ne sais pas comment, elle est à quatre pattes.
En pont
mais,
dans l'escalier.
En pont, voilà.
Ouais.
T'es Halloween, t'as jamais pensé à te déguiser en exorciste et faire ça dans des escaliers?
Ah, ceci dit, en fait, en vérité, c'est pas inintéressant ce que tu dis parce que je crois que le fait que ça fasse peur aux gens, c'est aussi parce que c'est très très corrélé à quelque chose de maléfique en fait, à quelque chose de l'ordre du démon,
du surnaturel, ouais.
Ouais. Il y a beaucoup beaucoup de gravures qui relatent de corps contorsionnés, etc. Qui sont représentants des personnes possédées, etc. Donc je pense qu'aussi il y a un peu un imaginaire collectif autour de ça qui fait que ça aide pas.
C'est vrai. Mais voilà, et puis même dans les représentations des crises de tétanie par exemple au niveau du médical, je vais taper ça maintenant, faites les recherches, mais tétanie ou tétanos, je vais taper tétanos. Je pense qu'on a des représentations de corps comme ça qui est presque en Ouais, ben voilà, là j'en ai un quoi, qui est en alors c'est pas de la contorsion, mais c'est une extension dorsale avec une contracture tellement forte des muscles du dos que ça fait un espèce de pont. Peut-être que ça renvoie à cette image-là, alors à la fois démoniaque et peut-être aussi d'une maladie, d'une maladie.
C'est bien possible. En tout cas, heureusement, on peut faire des. Non. Et puis, on peut s'amuser un peu avec la contorsion. En tout cas, j'ose le croire. Moi, dans les créations que je mets en avant, en tout cas, j'essaye de faire de la contorsion quelque chose de ludique plus que quelque chose de monstrueux.
Bah oui, parce que tu montes des meubles.
Oui, en effet. Effectivement.
Ça, faut que tu m'expliques comment elle est venue cette idée. C'était un spectacle, en fait, qui.
Ouais.
Tu montes un meuble IKEA mm-hmm. en faisant des figures de contorsion.
Mm-hmm. D'où ça m'est venu? Alors en fait, je crois que c'est parce que l'utilisation de l'objet quotidien dans ma discipline, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. En vérité, faire des équilibres sur les mains par terre, ça m'a longtemps pas trop amusé quoi. Je me sentais bien plus inspirée de faire des équilibres sur les objets, sur le mobilier, sur tout plein de choses qui sont pas faites pour ça. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un peu un spectacle parce que je trouvais ça amusant. Un jour, j'ai monté un meuble IKEA tout simplement, et des fois, t'avais vraiment des illustrations qui étaient ultra alambiquées, des trucs qui c'était vraiment, c'était improbable, enfin impossible à comprendre. Tu pouvais pas sauter une étape. En même temps, enfin, c'était hyper complexe, et j'avais vraiment l'impression de devoir me contorsionner en fait pour monter ce meuble parce que sinon, ça n'allait pas fonctionner. Et j'avais envie de parler un peu de ce côté très conventionnel. Alors j'espère qu'IKEA va pas regarder la vidéo, mais c'est, en fait, il y a rien
PDG,
de plus.
Le PDG d'IKEA, je pense qu'il.
Il y a rien de plus conventionnel que ça en fait chez eux. Même rien que rentrer dans leur magasin, tu rentres et tu suis un parcours tout tracé. Tu peux même pas décider d'aller voir un truc en particulier parce que tu dois vraiment suivre le tracé. Sinon, on dirait que tu pourras jamais sortir en fait du magasin si tu suis pas le tracé. Et j'avais envie de détourner en fait cet aspect conventionnel et de créer un spectacle qui parle de ça, qui parle de. On a tous une façon différente de monter un meuble. C'est pas grave de sauter des étapes, et on a toute une façon à nous de le faire, et la mienne c'est en équilibre et contorsion. Donc voilà pour
Alors
ce spectacle.
Quel type de meuble? Est-ce que ça change chaque spectacle? Tu prends le même? Est-ce qu'on a la référence Glooblick?
Oui, bien sûr, si vous voulez. Alors le meuble, je crois que c'est une commode Malm et une table de nuit de la même catégorie. Donc c'est extrêmement c'est le grand basique en fait que moi je retrouve aussi chez des potes. Ils ont ça dans leur appartement, ça m'amuse beaucoup.
Tu peux me répéter le nom si tu l'as?
Malm, Malm, commode, okay. Et table de nuit. Du coup. C'est vraiment un basique. Hein.
Ouais, je suis dessus là. Ok, je vois. Et ça prend combien de temps à monter? Alors, ça prend combien de temps à monter sans contorsion? Et toi, combien de temps ça te prend de le monter en faisant des contorsions?
Je suis pas une très. Enfin, je suis une bonne bricoleuse, mais quand même, quand j'ai dû les monter pour la première fois, je pense que ça m'a dû me prendre une petite après-midi. La vérité étant que pour ce spectacle, il y a une adaptation qui est faite. Le meuble que j'utilise, c'est un meuble. Donc, c'est le meuble IKEA, mais il est adapté à ma discipline de cirque. En vérité, il est renforcé parce qu'il doit subir beaucoup de spectacles parce qu'il tourne, donc du coup forcément et il faut qu'il puisse supporter à la fois mon poids, etc. Faut pas oublier que les meubles IKEA, c'est pas les meubles qui sont les plus solides, c'est bien connu. Donc c'est un meuble pour ce spectacle en tout cas qui est bien sûr adapté, qui est monté en partie et démonté en partie aussi. Et donc la vérité c'est que je le monte pas de A à Z, mais c'est pas le plus important finalement.
Donc, combien de temps ça te prend ce spectacle?
Dans le numéro? 10 minutes.
Ouais, le numéro. 10 minutes, ok.
Ouais.
Ah, d'accord, ok. Ouais, bah, je regarde un peu comment c'est fait le truc, le meuble en tout cas. ok, et non, mais c'est intéressant. Alors, comment tu fais en fait? Est-ce que tu vas chercher des objets avec une jambe pour les mettre à la bonne place?
C'est ça. Ça arrive. Ça arrive, parfois je dois attraper avec une jambe, parfois je dois monter dessus sur les mains, Parfois, je dois me contorsionner à l'intérieur, dessus, entre les objets, ou bien, voilà, passer entre les tiroirs. Et voilà, je peux pas trop en dire, mais venez le voir.
Non, mais c'est, ouais.
Si ça vous intéresse.
C'est comme ça. Ouais, faut aller voir. Alors, on sait qu'on peut voir ça. Tu fais une tournée dans toute la France. Dans un cercle en particulier.
J'étais plutôt, je travaille beaucoup avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Trifis, avec laquelle j'ai pas mal utilisé ce numéro. Et ces derniers temps, on a plutôt tourné de façon régionale. Moi, je viens de Lille, donc on a beaucoup été dans le nord de la France, la Picardie également, autour de Beauvais. On n'est pas trop descendu parce que c'est vrai qu'avec le Covid, tout était plus restreint. Donc, on était surtout dans la région. Mais j'ose espérer que oui, on pourra descendre un peu plus en bas pour ce numéro. Après, j'ai d'autres créations. Heureusement, je travaille pas que là-dessus. Sinon, je crois que je serais vraiment lassée de monter et démonter un meuble tous les jours. Même si c'est fantastique. Heureusement, je travaille avec d'autres compagnies et d'autres créations. Mais voilà. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les dates, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram. Je pense que je communique suffisamment avec pour que vous puissiez en être informé.
On laissera ça. On va y revenir après sur tes réseaux. Mais
ça marche. C'est pas pour faire ma pub, mais c'est pour le dire.
Non, mais profites-en. De toute façon, ils pourront retrouver le lien en description de tes réseaux. Alors, à part ce spectacle de contorsion, bon, on a compris que tu arrives à bouger un peu dans tous les sens, là, que tu es hyper souple, ça c'est fou. Est-ce que tu as une autre affinité, une autre discipline auquel tu aimes bien bosser, auquel tu as peut-être réservé un spectacle aussi, un numéro?
Alors en fait, très souvent quand on fait de la contorsion et des équilibres sur les mains, on a les facultés, sans le savoir vraiment, de pouvoir faire de la voltige. Parce que finalement, être en équilibre sur les mains par terre, c'est plus difficile que d'être en équilibre dans les mains d'un porteur, puisqu'en fait,
Putain, j'aurais pas dit, a priori.
Ouais, penserait pas. Parce qu'en fait, le porteur, lui, bouge en fonction de toi pour rattraper tous les déséquilibres. Donc, c'est-à-dire que le porteur c'est un peu le sol qui rattrape en fait tout est déséquilibre. Et donc en fait. Je sais pas si vous êtes déjà amusé à ça, mais on peut mettre des fois un balai sur ses doigts comme ça et s'amuser à rattraper le balai
en équilibre.
C'est un peu le même principe. Et alors que le sol, lui, il ne bougera jamais. Si tu te déséquilibres, tu tomberas. Tu te rattraperas, mais tu devras faire beaucoup d'efforts. Et c'est ça qui est difficile et ingrat dans les équilibres sur objet ou au sol. Et donc, pour répondre à ta question, je voltige aussi un peu. Bien sûr, j'ai pas le niveau d'une voltigeuse dont c'est vraiment la discipline, mais ça, là, en l'occurrence, dans une autre création qui s'appelle Jeu d'enfant, j'aurai l'occasion de voltiger en main à main avec un porteur qui s'appelle Emric.
Ok. Et alors, ça demande de la force, ça, quand même. Il faut être parce que quand tu tiens sur une main, même avec un porteur, quand tu fais des mouvements, quand tu te mets dans un état de déséquilibre, ça demande d'une sacrée poigne, non, mais une grosse force en isométrie aussi.
Ouais. En fait, vraiment, ouais, ça demande beaucoup de force, d'endurance aussi, et du gainage, ça c'est évident. Et aussi, en fait, une grande conscience corporelle parce que c'est très particulier d'avoir la tête en bas et de devoir tenir ainsi parce qu'en fait tu ne vois pas ton corps en fait quand tu effectues un mouvement en musculation qui est déjà très technique comme je sais pas du soulevé de terre ou du squat, déjà c'est technique, déjà avoir un miroir c'est important pour évaluer en fait son positionnement. Là, il faut imaginer qu'en fait, tout ce qu'on fait, on le voit pas. On peut que le sentir. Et donc, il y a qu'à force de répétition, en fait, qu'on s'habitue à un peu développer je vais pas dire un sens supplémentaire. On n'est pas des super-héros non plus, hein, mais cette espèce de conscience qui va au-delà du regard. Et ça s'exerce, ça se muscle finalement aussi. Mais pour revenir à des choses plus pragmatiques, effectivement, tout le travail de musculation à côté est super important. Vraiment, en tout cas, moi, je trouve. Comme je te dis, il n'y a pas de bouquin hein, sur les artistes de cirque, mais moi, la musculation, elle représente 40% de mon entraînement et 60%, c'est de la technique de cirque. Mmh. Et en fait, je devrais même dire musculation et cardio. parce que le cardio aussi c'est nécessaire, parce qu'en fait dans un spectacle t'as tendance à courir un peu partout pendant une heure ou un peu plus, donc le cardio en fait c'est nécessaire de le travailler.
Okay, on va revenir sur tes entraînements, hein, ça m'intéresse. Avant, quand tu dis, alors il y a pas de livre, c'est assez curieux quand même qu'il y a pas de livre. Il y a des livres pour le foot, il y a des livres pour la muscu, Eric Delatier, Miguel Gundil, etc. Il y a des livres pour un petit peu toutes les disciplines. Et alors là où je veux en venir surtout, c'est est-ce que, parce que c'est pas si marginal quand même le cirque. Il y a du monde, il y a un marché.
C'est clair. Non, mais c'est vrai. Je dis il y a pas de livre, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des, alors en plus. Bien sûr qu'il y a des livres d'histoire du cirque, il y a des livres, mais en biomécanique sur les artistes de cirque, honnêtement, c'est assez pauvre quoi, et c'est triste. Alors parce que en fait, je crois qu'il y a peut-être que ça n'intéresse pas aussi les auteurs de se pencher sur des disciplines qui sont extrêmement spécifiques. Peut-être parce que c'est pas une discipline qui fait de la compétition. En fait, lorsqu'il y a de la compétition, il y a de la performance et du coup, ça mérite de l'analyse. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que dans quelque chose de spectaculaire, l'enjeu, c'est la performance spectaculaire, mais on n'ira pas analyser comme on le ferait avec un swing de golf ou comme on le ferait avec un mouvement de musculation ou de powerlifting. Je crois que c'est une question de prétexte, en fait. On trouve pas le prétexte à analyser des artistes de cirque. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas un staff suffisant pour la récupération, par exemple. C'est un peu la même raison, parce qu'en fait, si aujourd'hui, on n'a pas de littérature scientifique sur la biomécanique chez les artistes de cirque ou sur les mouvements des artistes, c'est, je pense, simplement parce qu'on ne les considère pas comme des sportifs de haut niveau. Et ça, c'est une erreur.
Mais au-delà qu'il n'y a pas de compétition, parce que ça reste un domaine purement de divertissement, comme tu le dis. Voilà, c'est des spectacles, c'est des représentations, c'est du public qui vient voir ça, qui vient regarder. Est-ce qu'il y a du fric là-dedans ? Enfin, parce que c'est souvent le nerf. Non, mais ça on le dit, hein, c'est le nerf de la guerre.
Il n'y a
pas de compétition, mais. Mais par exemple, c'est un mauvais exemple, j'allais dire ceux qui sautent, ceux qui font des gros plongeons, c'est des trucs Red Bull, etc. Mais c'est une sorte de compétition aussi. Mais tu vois là, pour le coup, il y a de l'argent, il y a une sorte d'argent, en tout cas suffisamment pour déployer des trucs assez dingues. Et dans le cirque, est-ce que il y a du fric à se faire en tant qu'artiste ou en tant que producteur de... Non, parce que c'est souvent ça qui ensuite va mener à peut-être élaborer des produits connexes comme ça, c'est comment s'entraîner,
c'est
des programmes d'entraînement, des livres, etc.
En fait, parce que aussi c'est pas le même domaine, il s'agit du domaine de la culture en France en tout cas. Donc c'est pas les mêmes subventions. Et je crois que dans le domaine culturel, on n'envisage pas en fait de travailler sur ce domaine de compétences qui est l'entraînement chez les artistes, l'entraînement spécifique. Néanmoins, est-ce qu'il y a du fric pour répondre à ta question ? Oui, bien sûr, puisque la culture tient une part importante en France en tout cas. Ailleurs, je le crois aussi, mais en France, on a un statut particulier qui s'appelle le statut d'intermittent du spectacle, qui nous permet de vivre de notre métier. Et ça, c'est fabuleux. Enfin, c'est clair. Donc, est-ce qu'il y a du fric ? Oui. Je peux répondre plutôt, est-ce que j'en vis correctement ? Oui, bien sûr, et heureusement.
Parce que toi, t'es payé, par exemple, quand tu fais des représentations, au nombre de tickets, nombre de places vendues, t'as un pourcentage ?
Pas tout à fait.
C'est pas comme ça que ça fonctionne ?
Non, pas tout à fait. En fait, toi, tu es payé, enfin, en tant qu'artiste, t'es payé au cachet. C'est ce qu'on appelle un cachet d'artiste. Ça veut dire que pour ta représentation, tu vas toucher un cachet, donc... Je me rappelle plus des minimums exactement, mais pour une prestation, il me semble que ça va être de l'ordre de au moins 100 euros net, plus ou moins.
Et ça, c'est qui te le donne, ce cachet ?
C'est l'employeur. Alors l'employeur, ça peut être une compagnie, ça peut être une structure culturelle, comme une salle de spectacle, comme un lieu. Ça peut aussi être un particulier, parce qu'après il existe des organismes au travers desquels tu peux passer pour rémunérer un artiste officiellement, pour le déclarer. En fait, n'importe qui, on peut n'importe qui peut demander à faire du spectacle en le déclarant. Bien sûr, après, bien sûr qu'il y a des.
J'attaque personne, mais parce que c'est un petit peu comme les groupes, quand tu fais intervenir un groupe de musique pour une soirée privée, pour un mariage, une chose comme ça. Mm. Très souvent, c'est au black parce que t'évites.
Oui, encore que là, enfin, nous, on n'a pas trop d'intérêt à faire ça au. Enfin, les musiciens non plus, quelque part, mais. C'est-à-dire que si tu déclares pas ton cachet officiellement,
ça fait pas partie de tes heures de ton intermittence.
Ah ouais, tu cumules pas d'heures pour ton intermittence. Si tu cumules pas d'heures pour ton intermittence, du coup t'es pas rémunéré de façon fixe.
Sauf si t'as déjà suffisamment d'heures et que en ayant un cachet au black, il va être plus important que, enfin, il va te revenir.
C'est l'affaire de chacun. Mais derrière, s'il y a un accident ou s'il faut pas oublier que en fait. Ça peut être amusant de contourner les règles parce que voilà, mais on est quand même dans un métier à risque. Et aujourd'hui, si demain je donne une prestation de contorsion, que je fais une chute et qu'elle est grave et que j'ai pas déclaré que c'est pas officiel, ça va pas être la même tarif quoi. Ça va être problématique.
Pour qui, pour toi ou pour l'employeur?
Les deux, parce que finalement. Toi, tu te produisais pas dans le cadre de ton travail, donc il s'agit pas d'un accident lié au travail. Donc, du coup, t'es pas aidé de la même façon par ta sécurité. Et pour l'employeur, lui, s'il y a un contrôle du coup qui est fait et que cette activité salariée, elle n'était pas déclarée, ça risque de poser problème à la structure qui s'amuse à faire du black. Après, je suis pas juriste, donc je vais pas m'amuser à te dire véritablement ce qu'il en est. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'utilise pas, je contourne pas le système. Mais
je voulais pas en venir là. Non, mais ok, parce que c'est.
Mais faut pas oublier le risque, je crois vraiment, parce que si t'es musicien, je veux pas dire qu'il y a pas de risque pour les musiciens. Ce que je veux dire, c'est que en tout cas pour nous. C'est pas anodin que de risquer la chute dans notre métier.
Quand ça arrive la souvent, et c'est, main, le, ouais. Ouais. C'est vrai que t'as moins de chances de te blesser en faisant tomber la guitare sur tes pieds ou des choses comme ça, quoi.
Peut-être, oui, voilà.
Et alors, si c'est un cirque alors comment ça se passe? Le cirque t'engage et c'est lui qui te donne le cachet. Et pour tous ceux qui font des tournées, par exemple, je dis le cirque. Attention, je vais peut-être dire des grosses âneries parce que admettons, t'es engagé par le cirque Pinder ou quoi, et tu fais une tournée dans toute la France. Le cirque te paye donc en fait le directeur de cirque est un grand employeur. C'est une espèce de directeur
de
salle.
C'est une entreprise en fait.
Qui bouge, quoi. Enfin, qui est mouvante.
Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. En fait, c'est difficile à décrire parce que ça dépend énormément du projet. Par exemple, parfois, ça va être juste une structure en particulier, une structure culturelle qui va faire un appel à projet pour un événement en particulier. Ça peut être ou bien ça peut être un festival. Et dans ce cas-là, c'est le festival, l'organisme qui régit le festival, qui va s'occuper de ça. Ou bien ça va être une compagnie au travers de laquelle tu vas passer pour te produire. Il y a énormément de systèmes différents en fait, et du coup c'est pas très très compliqué, hein, mais c'est juste que ça donne beaucoup de cas de figure. C'est difficile d'avoir un cas de figure très unique.
Oui, un truc général. D'accord. Mm. Mais grosso modo, tous ceux qui travaillent dans des cirques, en fait, ils sont payés au cachet. Ils sont pas. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de public. Qui débarque ou qui en a peu, que les places sont pas vendues, ça change rien pour l'artiste.
Normalement, ça change rien. Après, ça arrive que il y ait des structures qui disent nous, on paye au guichet. Et ça, ça veut dire que effectivement, ça va dépendre du nombre de personnes qui rentrent dans la salle. Mais ça se fait peu et en fait, normalement, je suis même pas sûre que ce soit autorisé en fait de faire ça, à vrai dire. Parce que quoi qu'il arrive, non, parce qu'en fait, comme quand tu payes un artiste, de toute façon, comme il y a un minimum obligatoire, t'as pas le droit de descendre en dessous du minimum, quoi. Donc, tu peux pas payer un artiste à 30 euros net. Ça peut pas être,
par exemple, le prix minimum plus les pourcentages sur les ventes en plus ou des choses comme ça, si jamais.
Bah après, c'est un arrangement, mais bon. La plupart du temps, les structures, je crois que le bénéfice qu'elles font en plus, elles ont pas trop. Enfin, elles préfèrent le mettre de côté, le garder pour d'autres projets. Enfin, voilà.
Mais parce que si toi, par exemple, t'es t'es une artiste au cirque Pender ou au cirque n'importe quoi, enfin peu importe, que tu ça te permet de te roder, enfin bon, pas que te roder si t'es à Pender, mais de gagner en popularité, peut-être de faire qu'on parle de toi spécifiquement. Au bout d'un moment, tu vas te dire bon ben, est-ce qu'il y aurait pas moyen que je fasse à un moment donné mon spectacle à part ? J'ai eu ma notoriété, j'ai amélioré mon spectacle et puis je me suis fait connaître grâce au cirque, mais je ne pourrais jamais gagner plus ou je ne pourrais jamais développer plus en termes financiers ou de mon spectacle. Donc je décide de le faire tout seul ou de me sortir du cirque. Et là, à ce moment-là, tu ne peux, t'es obligé de créer une société. Tu ne pourras pas dire bah tiens je suis payé un peu comme je sais pas comment ça se passe d'ailleurs mais les artistes qui font des concerts j'en sais rien moi les j'allais dire Michael Jackson mais il est mort tous ceux qui font des concerts là c'est plus il y a de personnes qui viennent plus ils reçoivent un
je vois ce que tu veux dire
donc est-ce qu'en termes de spectacle de cirque ça peut être la même chose
alors si tu peux faire ça oui effectivement en fait ça va dépendre aussi de parce qu'en fait, je sais pas si, parce que si par exemple je prends l'exemple de mon solo, quoi qu'il arrive, c'est les structures dans lesquelles je joue qui me payent. Donc,
il faudrait que tu crées ta propre structure, en fait.
En fait, c'est ça. Ou alors, oui, tu crées une asso dans ce cas. Enfin, c'est ce que la plupart des gens font, parce que tu crées pas une entreprise. Mais tu peux créer une asso et après tu réinvestis dans ton asso. Mais
et si tu joues à l'extérieur, hein, dehors? Par exemple, tu vois, il fait beau l'été, il y a un grand parc là où il y a un grand truc, et tu décides de jouer dehors, de faire ton spectacle.
Bah, tu peux jouer ce qu'on appelle au chapeau. Ça veut dire que du coup, tu poses un chapeau, mais alors c'est plus du tout le même, c'est pas le même enjeu. Après, la vérité, c'est que je suis même pas sûre que ce soit autorisé. En vérité, il y en a plein qui le font, hein, bien sûr. Comme il y a plein de musiciens dans le métro parisien. Mais il y a des réglementations à la fois pour les musiciens dans le métro parisien, comme il y en a aussi pour l'art de rue. Donc,
c'est ça que j'allais dire, ça devient une artiste de rue, quoi.
Bah oui, et c'est pas un problème hein, d'être une artiste de rue. Moi, je fais aussi du cirque dans la rue, ça m'arrive, mais c'est encadré. C'est dans des festivals, c'est dans des lieux, pour des événements pour lesquels je suis rémunérée et pour lesquels tout est réglementé, parce que ça peut être dangereux, parce que il faut faire attention s'il y a un accident, la responsabilité de qui est engagée. Enfin, tout ça, ça peut pas s'improviser en fait. Il faut que ce soit structuré. Sinon, c'est risqué pour la ville et ça peut. Après bon, je pense ça, voilà, je ça pense c'est à... quand même. Hein, y en a plein qui font du cirque dans la rue ou qui font voilà.
Des numéros, tu sais, numéros. Je pense, peut-être que tu l'as déjà entendu sur le podcast, hein, c'est Jean-Marie Corda, qui était artiste de rue avant.
Ah non, ça me dit rien.
Non, t'as pas écouté le podcast. C'est bon, il est venu le temps pour moi. Ça fait quelques épisodes que j'avais pas mentionné Jean-Marie Corda. Voilà, allez écouter cet épisode. C'est l'épisode. Prenez des pincettes, évidemment. Ça, je le rappelle à chaque fois. Je vais regarder le numéro d'épisode. J'ai jamais les numéros. C'est triste. Qui était avant artiste de rue, avant d'avoir plein d'autres métiers. Et attendez, hein, j'essaie de retrouver Jean-Marie Corda. Là, l'épisode 37 avec Jean-Marie Corda que j'ai sobrement intitulé la thérapie par la prostitution. Deux points. D'interrogation. Bon, allez écouter cet épisode. On parle pas tant d'artistes de rue, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense. Je souhaiterais réinviter Jean-Marie pour parler de son parcours quand il était artiste de rue. Je pensais que tu avais écouté l'épisode. C'est un épisode particulier.
Non, pour le coup, non, mais c'est vrai que je sais pas en plus en quelle année ça pouvait être, mais c'est vrai que les réglementations aussi, elles se sont structurées depuis. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est grave, je devrais le savoir, mais en vérité, je sais pas quand est né le statut d'intermittent du spectacle, tu vois. Parce que ça, c'est aussi, je pense que ça a été une façon de structurer aussi, d'encadrer un peu notre métier. Mm-hmm. Et du coup, je sais pas du tout te dire si la personne dont tu parles, elle était intermittente ou pas, ou si il vivait de son art dans la rue.
Oui, oui, je pense que, ouais, enfin bon, je pense que c'est ça. Hein. On éclaircira tout ça si on refait un épisode avec lui. Enfin, si je refais un épisode avec lui, je passe le bonjour à Jean-Marie. Hein. Je sais pas s'il écoutera. Il est assez occupé. Maintenant, il a pas mal de choses à s'occuper. Très décrié. C'est un personnage. Hein. Ses idées peuvent diviser beaucoup. On va revenir quand même sur l'entraînement après ce petit côté juridique, sociétal, entrepreneurial. Comment tu t'en... Alors tu me disais là, c'est à peu près t'as un pourcentage où tu vas t'entraîner en musculation en force pour essayer et en cardio, et ensuite le reste en technique. Bon, en technique on s'imagine, hein, c'est améliorer sa souplesse, c'est faire les numéros, c'est améliorer sa technique sur tes mouvements, etc. Ouais. Mais en ce qui concerne ton entraînement musculaire, musculation, force, cardio, comment ça s'organise et à quoi il ressemble? Parce que on est dans un objectif d'améliorer c'est objectif ça. Cirque, c'est ça. On est plus dans la prépa, limite prépa physique cirque.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai été encadrée par un coach pendant 5 ans pour avoir un planning à peu près clair. Enfin, à peu près clair. Même très très clair d'ailleurs. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas inventé. Je l'ai pas sorti du chapeau.
C'est intéressant ça. C'est un préparateur physique spécialisé dans les artistes de cirque.
Oui, en tout cas, il était spécialisé à ce moment-là. Maintenant, il a pas changé d'orientation. C'est juste qu'il est plus spécialisé en préparation mentale en ce moment. Il s'appelle Guillaume Bilk. N'hésitez pas à vous renseigner à son sujet si jamais. Et en fait, il a été préparateur physique au Centre régional des arts du cirque et de la rue à Amiens. Et ensuite, il est rentré. Au Crack de l'Homme, c'est-à-dire Centre régional des arts du cirque de l'Homme, c'est à côté de Lille. Voilà, c'est là où j'étais en tout cas. Et peu importe, je vais.
Parce Comment que tu
je
l'écris, pas... Bilk?
Bilke.
D'accord. Voilà, comme ça on a.
Voilà. Et lui était passionné d'entraînement spécifique justement, et donc il a encadré notre entraînement pendant nos trois ans et demi d'école supérieure. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, je m'entraîne deux fois par jour, 5 à 6 jours sur 7. Donc, le matin, je m'entraîne en technique, donc, équilibre et contorsion. Ça dure à peu près 2h30 à 3h. Et l'après-midi, je m'entraîne en musculation. Et cardio si jamais, enfin ça dépend des jours, mais et du coup là ça dure à peu près 2 heures. Je sais que le lundi et le jeudi je fais plutôt les jambes l'après-midi. Le mardi et le vendredi donc je fais plutôt le haut du corps et les abdos. Donc ça comprend du coup les bras, le dos, les abdos.
Mais ça ressemble à quoi? Est-ce que tu travailles avec des poids lourds, avec de longues
répétitions? Des poids lourds,
lourd pour toi, j'entends.
Oui, bien sûr. Moi, je navigue la plupart du temps. Je dirais que je suis plutôt entre 6 et 15 répétitions, sachant qu'il y a des cycles où je suis plus autour de 15 pour l'endurance. Il y a des périodes où je suis plus autour de 6. Et pour dire la vérité vraiment, je préfère charger un peu plus lourd parce que c'est un peu plus challengeant. Alors la plupart du temps, je suis plus autour de entre 6 et 10 répétitions parce que ça me challenge un peu plus. Et des fois, je suis un peu plus régulière sur ce genre de travail quand je me sens plus challengée. Donc voilà. Mais c'est pas
Alors,
du tout une obligation.
Quelles sont tes performances?
Mes performances. Voilà, depuis qu'on n'est plus allé en salle, c'était difficile à jauger. Mais bah pour te donner une idée, je sais pas, en les tractions, je dois en faire 12.
D'accord. Non mais attends, ça c'est intéressant parce que ça permet de voir à peu près quel niveau physique, forme, muscle, etc. On doit avoir pour prétendre être une artiste de cirque. Enfin, voilà, c'est ça veut pas dire que tout le monde si une femme qui nous écoute fait 12 répétitions, elle est capable de faire de la contorsion ou quoi, mais ça donne à peu près le niveau. Donc c'est pas mal, hein, 12 tractions.
Pour te donner des idées, après, le soulevé de terre, je suis pas très forte en soulevé de terre, mais En plus, il n'y avait pas forcément suffisamment de poids à la maison au moment du confinement, donc je pense que j'ai un peu régressé.
Mais me sortir 200 kilos.
Non, non, t'es fou. Non, 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 pas du tout. Non, non, je dois être à peu près 55 kilos en 14 répétitions, si je me trompe pas. Moi, je fais un poids de corde à peu près 53-54 kilos, je pense.
Ok.
Tu mesures combien? C'est pas 1m67.
Ok, bon, oui, bah, c'en est, ouais, très, très, très correct, quoi.
Je me rappelle que en hip thrust à l'époque, là les salons réouverts, j'ai pas retesté depuis. Je pense que mon maximum ça devait être 12 répétitions à un peu plus de 100 kilos. Donc c'est correct, tu vois, c'est pas non plus des charges de folie. Et en développé couché,
non mais c'est
je
pas.
Plus.
C'est intéressant parce que c'est pas ta discipline en fait. Comment c'est, tu ne fais pas ça pour soulever, tu soulèves pour ensuite pouvoir transférer le
oui,
mouvement,
oui.
Transférer la force.
C'est clair que pour moi, c'est toujours la musculation, elle est toujours, même le cardio, c'est toujours au service de ma discipline. Peut-être que je m'ennuierais un peu si j'avais que la musculation comme discipline, je sais pas dire. Mais après, il y a quand même une forme de satisfaction dans le fait de soulever des charges plutôt lourdes. Je crois que il y a un truc un peu challengeant qui me sort un peu de ma discipline aussi. Ça me permet de pas être trop, c'est moins routinier, parce que si je devais vraiment faire que, et aussi en fait j'en parle pas de ça, j'ai pas pensé, mais c'est pas uniquement pour être plus forte dans ma discipline, c'est aussi pour éviter les déséquilibres liés à ma discipline. Parce que comme je travaille tout le temps sur les mains, en fait, j'ai un dos qui est assez développé, j'ai des épaules et des bras un peu forts, un peu développés, quoi, par rapport au reste de mon corps. Et du coup, c'est important pour moi de travailler aussi le bas du corps pour pas sembler trop déséquilibré. Et pour moi, l'équilibre, au sens de ma discipline, bien sûr, mais dans la vie et dans ma pratique, dans mes pratiques, c'est hyper important. C'est quelque chose vraiment de primordial.
Ok. Oui, non, mais alors, il y a le fait d'améliorer tes performances et puis pour ta discipline de cirque et puis l'effet prévention des douleurs, rééquilibrage des
équilibres. Oui, bien
des,
sûr.
Des asymétries.
Je ne soulève pas lourd tout le temps. Enfin, je fais pas du lourd tout le temps. Il y a plein d'exercices que je fais uniquement pour ma rééducation. Je suis suivie par un kiné depuis longtemps aussi. Donc,
ok. Et est-ce qu'il y a des exercices qui sont vraiment purement transférables? Tu vois, quand tu me dis je tiens sur les mains, je fais le poirier, enfin pas le poirier, mais l'appui tendu renversé, comme ça qu'on appelle, je crois.
Bah en gym, on appelle ça comme ça, nous on appelle ça équilibre sur les mains, oui.
Équilibre, bon. Par exemple, le développé militaire, est-ce que ça c'est un exercice que tu insistes dessus? Développé militaire, c'est voilà, travailler les muscles de l'épaule avec un poids. T'insistes là-dessus parce que c'est quelque chose qui va être transférable sur le fait de faire un équilibre?
Bah, ça peut, oui. Mais en vérité, j'insiste pas non plus tellement en musculation à ce niveau parce que, en fait, comme je te disais, je m'entraîne 3 heures le matin déjà sur mes épaules. Et du coup, c'est...
Je veux pas surcharger.
Ouais, je veux... Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est parce qu'aussi, j'ai essayé plein de méthodes parce qu'il n'y a pas de bouquin. Donc, en fait, j'ai essayé beaucoup de choses. Et je me suis aperçue
faut
quand même que...
Faut que t'écris ton bouquin.
Peut-être. J'ai pu développer des lésions, des inflammations à force de vouloir trop faire, en tout cas sur les épaules, etc. Et c'était contre-productif parce qu'après, dans ma technique, j'étais plus suffisamment efficace. Donc, finalement, il y a certains exercices que je laisse, en tout cas en musculation, qui sont mineurs dans mon entraînement, et d'autres qui sont plus importants. Par exemple, pour te donner une idée, je fais quand même pas mal de tirages. C'est pour ça que je te parlais des tractions, parce qu'en fait, en équilibre, tu fais que repousser tout le temps, et tu pousses tout le temps. Et en fait, même au niveau postural, du coup, je me retrouvais facilement comme ça, quoi, être mal placé. Et donc, du coup, pour rééquilibrer ça, j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est tirage face et traction.
Et puis aussi, j'imagine dans un certain sens que avoir un grand dorsal, puisque sur les tirages verticaux, c'est surtout le grand dorsal qui est impliqué, avoir un grand dorsal solide te permet de maintenir une meilleure, parce que c'est quand même le muscle qui échappe quasiment tout
ouais.
le dos. Ça permet de maintenir un gainage et de... et de enfin ça peut-être que ça améliore aussi l'équilibre dans un sens au-delà de contrer le déséquilibre de pousser, c'est aussi quelque chose qui te permet de maintenir la position.
Oui, toi tu l'as
remarqué en ayant plus en ayant mis un focus là-dessus que sur ton équilibre, tu te sentais plus à l'aise?
Oui, c'est certain. Oui, c'est vrai. Et aussi, j'ai remarqué que je me blessais moins le dos, en fait. Parce qu'avec la contorsion, quand même, c'est important de muscler, en fait, les muscles qui entourent la colonne vertébrale pour la protéger, en fait, de ce qu'on lui fait subir le reste du temps. Parce que c'est vrai que moins on mobilise, en fait, ces muscles autour de la colonne vertébrale et plus parfois dans l'entraînement peut y avoir des à-coups ou des choses qui sont pas contrôlées et c'est dans ces moments-là, la plupart du temps, qu'on se blesse. Alors que plus le mouvement est contrôlé, alors oui, on va dans une souplesse extrême, mais plus on a la force de contrôler le mouvement et plus on se protège de la blessure, je crois.
T'as eu des blessures, justement?
Ouais. après, je me suis pas blessée, j'ai pas eu des grosses blessures, je crois pas. Autant que je me souvienne, j'ai eu des lésions intercostales. Ça, c'est beaucoup lié à la contorsion ou tout ce qui est mouvement acrobatique de flip arrière. Je me rappelle que c'était beaucoup lié à l'explosivité que demande le flip, de partir en arrière, ouvrir la cage thoracique de façon explosive. Ça m'avait créé des lésions intercostales.
Alors, lésions intercostales, qu'est-ce que tu entends par là exactement?
Je dirais que c'était comme... c'est difficile à décrire. Au niveau des côtes flottantes, j'avais des douleurs musculaires entre les côtes qui m'empêchaient de respirer, de rire, de dormir sur le ventre, des choses comme ça.
Qui c'est que t'avais consulté? T'avais passé des radios, vu un médecin?
Ouais, à l'époque, j'avais vu un kiné, j'avais passé des radios et il y avait des micro-déchirures dans ces zones-là. Donc après, okay. Je suis pas médecin moi-même, donc c'est difficile pour moi de dire vraiment voilà ce qu'il en était. Mais en tout cas, ça m'avait demandé un peu de repos. Je me suis cassé une côte une fois. Une côte flottante, toujours. C'est bizarre, ça, avec...
Quoi, sur en tombant sur
on a fait un stage de cascade et ça fait partie des stages. Bon appétit.
Merci. je voulais faire passer ça pour ceux qui voient l'image, ils le voient, mais je voulais pas le mentionner. J'ai pas eu le temps de manger, donc j'ai une petite banane, donc je vais grignoter deux trois petits bouts comme ça. Mais normalement, c'est pas censé.
Mais désolé, j'étais obligée de souligner. Je comprends. En tout cas, merde, j'ai perdu le fil. Je m'étais blessée du coup aux côtes plusieurs fois. Mais ça va, c'était.
Oui, non, c'était. Je te demandais sur une réception quand t'étais tombée,
oui,
que tu t'es pris une côte.
Tout à fait. Oui, voilà. En fait, on a eu un stage de cascade parce qu'on a des stages comme ça à l'école professionnelle qui sont un peu autres que les disciplines qu'on apprend tous les jours. Et là, en l'occurrence, c'était cascade acrobatique, etc. Et en fait, je me suis pris un genou à deux reprises dans les côtes. Et en fait, ça a sûrement fissuré à ce moment-là. Et c'est dans l'entraînement le lendemain que ça a cassé. Donc, je pense que je l'avais fragilisé la veille.
Comment tu l'as ressenti, ça? Parce que chez certaines personnes, ça fait extrêmement mal. Chez d'autres, pas trop. C'est juste des chatouilles.
Ça fait un genre de bruit de verre. C'est difficile à décrire. C'était très étonnant. En fait, c'est dans la contorsion, justement, j'ai tiré, quoi. Et en fait, ça a fait comme un verre qui se fissure. Ça m'a vraiment donné ce sentiment. Et après, je suis revenue en position neutre. Et là, des difficultés à respirer vraiment. Du coup, je suis allée faire une radio et on s'est aperçu qu'elle était fracturée. Donc, ça m'a demandé un peu de repos. Mais c'est des choses qui arrivent souvent. Après, il y a des choses plus basiques comme les tendinites. Ça arrive souvent. Enfin, j'en ai encore d'ailleurs. Je travaille avec... Je vois mon kiné régulièrement pour essayer de
régler
ces choses-là. Épaules, à l'avant notamment, ici. Beaucoup au niveau des avant-bras.
Ouais, le long supinateur, là.
Ici.
Enfin, le bras... Ah oui, d'accord. Bah, t'as une prise? Tu fais beaucoup de mouvements de prise?
Oui, exact. Je fais des équilibres sur des objets de cirque, je ne les ai pas là, mais qui s'appellent des cannes.
Oui, okay.
Des cannes en hauteur.
Et, ah oui, coup, donc en fait, tu forces fort sur les muscles des avant-bras et les muscles des poignets,
ouais,
quoi.
Ça, c'est clair. Pour autant, les poignets, j'ai jamais eu de problème. C'est pourtant le lot des équilibristes pour beaucoup, mais moi, ça va, c'est pas trop problématique. J'ai eu des périostites au tibia. Ça, c'est les rebonds acrobatiques parce que, contrairement au gymnaste, je le sais parce que maintenant, je peux comparer avec mon passé de gymnaste, mais on travaille pas sur du tumbling au cirque. On travaille sur du sol dur, du parquet ou voilà. Donc, tout ce qui est salto ou rebond, tout ça, c'est sur, c'est pas sur du sol qui rebondit. Donc ça absorbe pas les chocs et du coup c'est plutôt les tibias qui prennent, etc. J'ai pas la prétention de dire que j'ai que je suis une très bonne acrobate d'ailleurs. Je le précise parce que si j'ai des collègues qui voient ça, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça fait pas salto. Mais mais voilà, je précise parce que ça arrive souvent les périostites chez les acrobates.
Très bien. Et alors ça, les périostites, pour le coup, ça met du temps à partir quand même. Ouais. C'est très merde. Hein.
Vraiment, ouais. Et c'est très douloureux. Je me rappelle de les avoir soignés. Donc chez la kiné, alors on les avait soignés avec des ondes de choc.
Ça, et ça doit pas être,
c'était l'enfer. Ça doit pas être agréable, ouais. C'était vraiment horrible. Je me rappelle, je venais avec une serviette pour mordre dedans le temps que ça passe, quoi. C'était vraiment, c'était vraiment hyper douloureux. Et finalement,
écouter les podcasts pendant la séance histoire de t'évader.
J'aurais jamais réussi à me concentrer, mais en tout cas, ce qui a été vraiment le game changer, c'est, j'ai vu tout simplement un podologue et j'ai mis des semelles orthopédiques en fait parce que j'en avais besoin en fait aussi.
Et, okay. Et fait, ça, c'est ce qui a donné la finalité.
Bah, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à être, à me soigner. Et puis, aussi, je suis devenue plus vigilante quant à mon hygiène de vie. Parce que je me rappelle que la plupart des blessures que je me suis faites, finalement, c'était souvent en prépa. Parce que à cette époque-là, mon corps, il n'était pas du tout habitué à vivre un tel entraînement deux fois par jour. Pour la plupart des gens disent, il faut pas s'entraîner deux fois par jour. Moi, je pense surtout que, ça dépend comment ton organisme est adapté à l'entraînement.
Ouais, mais... petit bonjour tant que j'y pense à Mario Bracco, l'épisode sera sorti probablement là
qui... Ah oui.
Ouais, Mario Bracco, je sais pas si tu connais, qui est un culturiste français naturopathe aussi qui à ce jour détient le record de longueur du podcast. On est allé jusqu'à 3h30.
Wow.
Il a dépassé de c'était un épisode long fleuve comme on dit. Il avait dépassé celui de d'Iron Quest qui avait déjà cartonné avec son 3h25 je crois. Mm. Et alors pourquoi je lui passe le bonjour, parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne deux fois par jour aussi. Et ah, je l'avais demandé un peu, mais est-ce que c'est vraiment possible, etc. Alors il y avait un peu de provocation et puis il expliquait comment il s'agençait. Donc en fait, tout dépend de ton objectif. Hein. Je tease un peu l'épisode avec Mario Bracco parce qu'il est super. Si vous voulez vraiment une espèce de panel là de limite un podcast cycle de vie entre le culturisme, la philosophie qui se cache derrière, la naturopathie, tout ça. Hyper intéressant, écoutez-le en plusieurs fois. Voilà, donc petit bonjour à lui. Effectivement, s'entraîner deux fois par jour, ben ça dépend. Si tu fais tout le temps les mêmes choses, c'est sûr, tu m'as rendu des preuves et puis ça dépend de l'intensité que tu mets aussi, quoi. Au début, c'est dur, mais finalement, c'est ce que tu fais tout le temps, toi, en étant.
Mais c'est fou parce que vraiment, en fait, le corps a une faculté d'adaptation incroyable, vraiment que je n'aurais pas imaginé comprendre avant d'être en prépa. Et en fait oui, c'est tout à fait possible de s'entraîner deux fois par jour. En revanche, il est vrai que on en parlait juste avant qu'on démarre vraiment le podcast, mais les périodes de décharge sont nécessaires au même titre qu'une hygiène de vie qui correspond à ce type d'entraînement. J'ai pas la prétention de dire que j'ai une hygiène de vie irréprochable, attention. Mais en tout cas, j'essaye d'optimiser les facteurs, c'est clair. Parce qu'en fait, juste, franchement, aller à l'entraînement le matin et voir à quel point c'est dur quand on n'a pas suffisamment dormi, bah, ça fait chier. Enfin, on se sent faible, c'est hyper frustrant. En tout cas, quand on travaille, en plus, je sais pas comment dire ça, mais, il y a beaucoup de culturistes, je regrette ça d'ailleurs, dont c'est pas le métier. Bon, c'est dommage parce que ça devrait pouvoir l'être. Et la différence avec nous autres, les artistes qui pratiquons avec le corps, ou bien les sportifs de haut niveau aussi, c'est que vraiment c'est ton métier. Tu te lèves le matin, on n'a pas d'autre métier à côté en fait. Donc du coup, c'est un peu frustrant.
C'est ce que j'allais dire. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que le deux fois par jour ou l'entraînement, beaucoup d'heures d'entraînement dans la semaine, c'est vrai que attention à qui de qui on parle, à qui c'est recommandé et puis.
Ah c'est clair, complètement.
Est-ce que c'est ton métier, est-ce que ça l'est pas, parce que c'est plus ou moins facile selon certaines situations et même recommandé, recommandable.
C'est clair, je serais carrément incapable d'avoir un autre métier en plus de celui-là quoi. C'est impossible, surtout que bah. C'est un rythme un peu particulier aussi. On voyage beaucoup entre les prestations, etc. Donc c'est un rythme un peu mobile et c'est assez. C'est assez énergivore. Donc c'est un métier à part entière. Je serais incapable d'avoir un autre job à côté, vraiment. Je crois que j'encouragerais personne à s'entraîner deux fois par jour si c'est pas son job, quoi. Ou s'il a un autre taf à côté. Enfin c'est. C'est lunaire.
Tout est à remettre
mais il y a des gens
contexte.
Qui y arrivent, hein, je crois. Hein, mais voilà.
C'était Rudy Koya aussi. Je ne sais pas si tu connais Rudy Koya, qui dit que quand il était plus jeune, qu'il avait beaucoup de temps, qu'il était encore étudiant, qu'il justement s'entraînait deux fois par jour à un moment donné, mais que ça, c'est pas tenable si t'es pas pro et qu'à partir du moment où tu commences à avoir un métier, je veux dire, tout est à remettre dans un contexte, quoi.
Ah ouais, complètement. C'est clair.
T'as eu d'autres blessures, à part périostite, qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre? Même de manière générale, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les blessures typiques d'une contorsionniste ou d'un artiste de cirque, de manière générale?
J'allais dire traumatisme crânien, mais c'est pas... j'ai fait ça, mais c'était avec un rapport avec le cirque.
Okay. T'es tombé sur la tête?
J'ai eu un accident de voiture, mais tout s'est bien passé.
Tu n'as pas de séquelles.
Non. Chez les artistes, qu'est-ce qui est le plus courant? Ça va dépendre des disciplines. C'est toujours pareil aussi, parce que par exemple chez les porteurs, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes blessures. Les acrobates, typiquement, eux, se blessent beaucoup au niveau du dos, je crois, parce qu'ils subissent des impacts quand même très forts dans la colonne vertébrale tous les jours. Et c'est une discipline qui est assez dure pour le dos. Nous, les contorsionnistes, je pense quand même qu'il y a, oui, bien sûr, les hernies discales, ça peut arriver. Mais en fait, il y a une étude, je ne sais plus laquelle, je n'ai pas la source, donc je suis désolée, mais qui montrerait que, en fait, les contorsionnistes ne subissent pas plus de hernies discales que le commun des mortels. Et qu'en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la contorsion favorise les hernies discales et c'est factuellement, c'est pas vrai. Il y a rien qui démontre ça. Je tenais à préciser. Mais après, en fait, le truc, c'est que dans notre discipline, alors si je connais pas mal de filles en équilibre qui se sont fait opérer les épaules parce que, et je connais pas la pathologie en l'occurrence, mais parce qu'elles avaient une fragilisation de la capsule autour de l'articulation de l'épaule. Je sais pas dire ce que c'est.
Bah, ça dépend parce que fragilisation. C'était quoi les symptômes et c'était quoi les problèmes?
Bah, je crois que c'est l'épaule qui a tendance à sortir de son logement.
Ah bah une instabilité probablement.
Oui voilà. En tout cas ça, je sais qu'il y a, je connais trois équilibristes qui se sont fait opérer des épaules pour ça, mais qui se sont remis dans l'entraînement après très correctement.
Ouais, alors souvent, alors si c'est l'instabilité, mais ça a l'air d'être ça par rapport à ce que tu me dis, c'est-à-dire que la tête de l'humérus va avoir tendance à sortir facilement de son logement et ça peut être très handicapant parce que à n'importe quel mouvement ou quoi, il y a cette sensation, cette appréhension que il va y avoir une luxation permanente.
Ouais.
Et alors souvent, c'est parce qu'il y a eu des luxations auparavant ou un accident ou quoi, ce qui fait qu'on perd la congruence de l'articulation. Donc ça crée une articulation instable, les ligaments peuvent avoir été pré-étirés, la capsule peut avoir été abîmée. Et là, en général, on opère pour essayer de renforcer. Ce qui est bien, déjà, c'est d'un point de vue musculation, c'est renforcer un peu les muscles dits ligaments actifs de la coiffe pour essayer de maintenir vraiment l'épaule en place. Mais des fois, c'est pas suffisant. Et on va, en chirurgie, essayer de renforcer le tout, de recréer cette stabilité. Je pense qu'il s'agit de ça, ouais. Et ça m'étonnerait pas, surtout peut-être en contorsion, le fait d'être... C'est vrai que si t'as une instabilité, c'est pas le top, quoi.
C'est clair.
Pour se détirer, peut-être.
C'est clair. C'est pour ça qu'aussi, pour moi, c'est important toute la préparation physique à côté et le renforcement musculaire, il est capital pour la longévité dans la discipline. Après, quand même, les équilibres et la contorsion, ça reste une des disciplines en termes de longévité qui est assez respectueuse du corps parce que ça, c'est vraiment une discipline qui se rapproche quand même assez fort du yoga, par exemple. On est sur quand même ça demande énormément d'endurance et de force, mais on est sur quelque chose de plus doux et de moins impact.
C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est moins impactant, ouais.
Et donc, en général, quand même, je connais beaucoup d'équilibristes, dont des professeurs, évidemment, qui aujourd'hui, à 60 ans, continuent aussi encore de faire des équilibres sans aucun problème, et qui ne souffrent pas, de douleurs perpétuelles, alors que je connais d'autres profs acrobates qui eux ont vraiment de grandes lésions en fait liées à l'activité. Après c'est toujours pareil, des fois il y a les accidents, enfin c'est difficile, je peux pas faire de généralité quoi, c'est toujours du cas par cas.
Et quels sont comment tu t'organises alors? Parce que là, t'es plein temps là-dedans. Ça veut dire que tu t'entraînes 2 fois par jour. T'essaies de mettre tout en place de ton côté. Alors, tu dis qu'il faut pas aller jusqu'à te targuer d'une hygiène de vie irréprochable. Mais enfin, on va essayer de creuser sur ça quand même. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour essayer d'être au top? On va parler un peu de thérapie aussi. Qui c'est que tu consultes, ce que tu vois? Mais avant ça, peut-être dans tes repas, dans tes repos, comment tu essaies de t'organiser pour être le plus en forme?
C'est marrant parce que je vais rejoindre un petit peu ce que disait, j'ai oublié son nom, Jérémy peut-être, dans un des derniers podcasts que tu
Jérémy
as
Coron.
Rendu public, voilà. Lui parlait beaucoup de l'importance, exactement. Il parlait de l'importance du sommeil, je le rejoins complètement. Pour moi, le sommeil, c'est hyper important pour la récupération. Je me demande si c'est pas le facteur le plus important d'ailleurs. J'essaye de dormir au moins 8 heures par nuit, ce qui est pas toujours efficace. Enfin, c'est pas toujours le cas, je veux dire, parce que des fois, comme quand je suis en tournée ou quoi, je dors pas chez moi. Donc, je suis à l'hôtel ou dans des gîtes et des fois, c'est pas toujours facile de dormir facilement quand on n'est pas chez soi. Mais j'essaye du coup d'optimiser ça en limitant les écrans, en prenant un bouquin pour me fatiguer. Là, en ce moment, j'ai ça à côté, c'est pour ça que je prends de la mélatonine parce que j'étais un peu déréglée parce qu'on a beaucoup travaillé le soir en spectacle et du coup, j'étais plus trop réglée en termes de sommeil. Donc là, j'essaye de favoriser la reprise d'un bon sommeil, par exemple, dans une période un peu off. Donc ça, c'est important pour moi. L'alimentation aussi, ça, c'est clair. Après, j'ai jamais eu trop de... Enfin, je me pose pas... J'essaie de pas trop me poser de questions avec ça parce que déjà, enfin mes parents, on habitait à la campagne quand j'étais plus jeune en fait, donc l'alimentation brute ça a toujours été un truc plus ou moins évident. Du coup, je me suis jamais trop questionnée sur le fait de consommer des aliments transformés ou pas. Un peu plus quand j'étais étudiante ou quand j'étais à l'internat, je me rappelle que je mangeais moins bien parce que la cantine, parce que voilà. Mais c'est vrai que maintenant, voilà. Bien sûr que je me suis beaucoup renseignée sur la nutrition, hein, c'est fondamental, je pense. Mais j'essaye de pas trop me prendre la tête parce que ça peut vite devenir obsessionnel en fait, je crois.
Mais on dit souvent que les sportifs de haut niveau ont vraiment une alimentation au couteau.
Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que je suis méga carré dans l'entraînement, dans beaucoup de choses. Et je sais, je connais le vice que ça représente d'être très, très, très carré dans son alimentation.
Tu sens que tu pourrais basculer?
Oui, oui, ça a déjà été le cas d'ailleurs. Oui, oui. Plus jeune, j'avais ce besoin d'optimiser absolument, etc. Et finalement, c'était pas... Ça m'a plus desservi qu'autre chose. Donc j'en suis un peu revenue. Maintenant, je suis un peu plus tolérante avec mon alimentation, avec mon hygiène de vie au global d'ailleurs, parce que il fut un temps d'ailleurs où je sortais pas du tout avec des amis, et je squeezais des sorties, etc. parce que je voulais être la plus optimale possible dans mon entraînement. Désormais, je suis toujours un petit peu comme ça, mais je pense que ma vie sociale a une part plus importante maintenant. Parce que je m'aperçois aussi qu'être plus épanouie socialement, ça me permet d'être plus performante dans mon taf. Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais voilà, ça fait partie des facteurs sur lesquels je joue. Et puis après, évidemment, le staff médical que je choisis, qui m'entoure, qui est important.
Alors pour le coup, ouais, quel est-il?
Je vois un kiné une à deux fois par semaine, une kiné en l'occurrence. Qui là ces derniers temps on travaille beaucoup sur les chaînes postérieures parce que je suis assez contracturée dans le dos etc parce que j'ai eu beaucoup de spectacles. Je vois un ostéopathe, je dirais plutôt deux fois par an. Je vois hier un nutritionniste une à deux fois par an, là un peu moins. Je fais des prises de sang quand même assez régulières. Notamment parce que j'ai eu quelques petits soucis hormonaux, donc voilà, maintenant tout va bien, mais du coup au niveau, je faisais un suivi à ce niveau-là. Et puis qu'est-ce que je vois d'autre? Ah bah préparateur mental aussi pour la performance, que je consulte pas régulièrement, mais quand c'est nécessaire, c'est clair.
Est-ce que ça t'a aidé ça? Est-ce que t'as vu des réelles différences?
Oui, quand même. Oui, sur je dirais que ça m'a pas mal aidé sur mon appréhension de l'échec dans les spectacles. Mais il y a
l'échec, c'est-à-dire le fait de pas réussir ton numéro, de te rater ou
ouais, de rater une figure, d'avoir l'impression de rater un numéro parce qu'on rate une figure, ça c'est un truc qui est assez
mais ça
récurrent,
tu sais que ça m'a toujours fasciné moi.
C'est pas
Non, mais c'est pas c'est, ça dépend comment on le prend effectivement, ouais. Mais j'ai toujours été fasciné par voir ces artistes et de se dire, t'imagines s'il se rate, et puis comment tu dois te sentir. Et puis même, alors, ça limite les funambules, ceux qui sont tout en haut, alors avec les trapèzes et qui se font sauter de personne en personne. Il y a un filet en bas et ils vont pas mourir, mais il y a vraiment cette sensation, que tu te mets à leur place, tu leur dis, ils doivent ressentir une pression, parce qu'il y a du monde, il y a du public. C'est du live, hein. C'est pas du redifféré. On n'est pas, c'est pas du YouTube.
Tu peux pas couper, c'est one shot.
Une fois. C'est one shot. Et donc, il y a forcément une pression qui doit être incroyable de est-ce que ça va encore passer, quoi. En fait,
la préparation mentale.
Et ce qui est très dur, c'est de voir, attends, je termine juste avec ça parce que ça m'était arrivé, et de voir un artiste qui se rate et d'entendre, je crois, mes parents ou des gens autour de moi, ils disent, putain, il s'est entraîné des heures pour ça, c'est tellement terrible de le voir rater à ce moment-là, et ça doit être pour lui-même terrible. Alors, le fait que tu me parles de préparation mentale, forcément, là, je rebondis et je suis intéressé, c'est pour ça, quoi.
Ouais, c'est clair. Oui, c'est fondamental parce que, en fait, moi, je me rappelle d'une fois en particulier où vraiment sur un spectacle, j'avais eu d'énormes difficultés techniques. Ça veut dire, enfin, j'avais vraiment des difficultés à réaliser mes figures, soit du premier coup, soit voilà. Et non seulement c'est compliqué parce que la technique rentre pas bien, mais en plus c'est délicat parce que tu te sors du personnage dans lequel tu t'es mis pour ce numéro. Enfin, si c'est trop important pour toi, en fait, tu sors de ce personnage et le public, il est mal à l'aise, il peut être mal à l'aise que t'aies raté une figure ou pas. Mais il sera d'autant plus mal à l'aise si en fait tu sors du personnage, quoi. C'est ça en fait qui est le plus
ça plus donne trouble.
Parce que ça te rend vulnérable.
T'as de la peine. Ouais. Et puis en tant que public, moi je me place vraiment en tant que public, hein, parce que pour le coup, tu vois, je me retrouve beaucoup plus là-dedans qu'en tant qu'artiste. Parce que j'ai aucune compétence en cirque, en rien. Et quand je vois un artiste qui pourrait rater sa figure ou tomber ou j'en sais rien. C'est vrai que forcément tu ressens une peine pour lui et un malaise. Alors si en plus, comme tu dis, il rentre pas dans son rôle et puis tu sens que le malaise persiste.
Ouais, et en même temps, c'est le lot de chacun. Enfin, je veux dire, ce serait trop facile si à chaque fois ça se passait one shot toujours bien, en fait. Et faut accepter ça. Ça fait partie du processus. Il y a un jour où ça se passera mal. Il y en aura plusieurs.
Ça t'est arrivé ?
Il y aura, oui, bien sûr. Oui. Et en fait, je me souviens que la fois vraiment où je l'ai vraiment très mal vécu, j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Je me rappelle que vraiment, ça avait été une grosse remise en question de mes compétences. C'est là que j'ai décidé de faire appel à un préparateur mental, d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup aidé.
Juste...
Oh bah rien, c'était un numéro où vraiment la technique était pas bien rentrée. J'avais chuté une ou deux fois. C'était un numéro qui me tenait vachement à cœur, que je passais dans mon école, etc. Parce que en fait, on fait des espèces de on donne des spectacles quand t'es en école professionnelle, et tu passes des auditions, etc., avec un numéro, jusqu'à ce que éventuellement tu puisses proposer ton numéro en public. Et c'est ce qui m'était arrivé. Donc j'avais réussi à passer l'audition pour montrer mon numéro en public. Et en fait, au moment, tout se passe bien à la répétition générale, et au moment de passer sur scène, y a rien qui se passe comme prévu, quoi. Et on sent ma maladresse, on sent ma vulnérabilité, et là je me sens j'étais dévastée, quoi, de vivre ce moment. Et en fait, je l'ai tellement mal vécu que finalement, ça a un peu désacralisé cette peur de rater. Parce qu'en fait, fondamentalement, je suis pas morte. Et aujourd'hui, des gens qui ont vu ce spectacle, personne ne se rappelle de ça, en fait. Il y a que moi qui m'en rappelle.
Et puis, il faut passer par là. C'est aussi l'apprentissage.
Exactement. Et en fait, finalement, ça m'est arrivé d'autres fois et c'était pas grave. Enfin, en fait, la plupart des gens s'en rappellent même pas.
Ils vont pas te juger non plus. Déjà de ça, et puis au pire tu tombes, on ressort pas d'un spectacle, le public ne ressort pas d'un spectacle de site, oh c'était nul, c'est raté, ça n'arrive pas en fait.
Non, et puis en plus, un spectacle ne se base pas uniquement sur la technique de cirque. Dans un spectacle, on emmène le public dans un univers, on lui propose de vivre une expérience, donc en fait s'il y a une chute, que ce soit d'une balle pour un jongleur ou de devoir remonter une deuxième figure pour réessayer pour une équilibriste, tant que la promesse de l'univers ou de l'histoire que tu proposes au public, tant qu'elle est tenue, le reste a peu d'importance finalement. Alors c'est sûr que si tu rates toutes tes figures et que voilà, c'est sûr que ça peut être un peu laborieux là pour le coup. Mais voilà, tout l'enjeu du spectacle ne se base pas là-dessus, contrairement aux compétitions de sport de haut niveau par exemple.
Et oui, parce que là, t'as un enjeu d'être le meilleur. C'est ça, c'est intéressant. Et alors, le préparateur mental, pour le coup, c'est lui qui t'a fait voir les choses sous cet angle-là. Il t'a fait prendre conscience de ça. Et peut-être, tu te sens moins en pression quand tu démarres un spectacle par rapport à ça, ou il t'a donné des techniques pour être plus dans le moment.
Ouais. Déjà, je fais plus de visualisation avant la performance. Je fais plus d'autosuggestions, j'ai des exercices de méditation, de relaxation, tout un tas d'outils comme ça en fait que j'utilise, alors quand j'en ressens plus ou moins le besoin. Et puis après au quotidien, j'écoute pas mal de développement personnel, alors au sens large, donc je vais éviter de trop vulgariser, mais ça me permet aussi d'avoir accès à d'autres outils, ou en tout cas d'en essayer dans le but d'être plus performante. Et je parle de la scène bien sûr, mais aussi parfois dans l'entraînement, parce qu'il y a des jours où vraiment l'entraînement se passe mal et t'as l'impression que tu es vraiment la pire des artistes quand ça se passe mal comme ça. Et en fait l'idée c'est au contraire de prendre ce jour comme quoi qu'il arrive un jour d'entraînement parmi d'autres. Il est mauvais, demain sera meilleur et basta. Et déjà s'entraîner, continuer de s'entraîner quand on sait que c'est une journée difficile, c'est déjà une victoire en fait. J'essaye.
Alors tout mauvais entraînement est celui que tu ne fais pas. Hein. Ça c'est, je sais plus qui a dit ça, mais
je connaissais pas toi.
Ouais, je l'ai vu passer, je pense récemment sur un réseau social ou je sais pas, mais c'est ça. Le seul mauvais entraînement, c'est celui que tu ne fais pas. Ce qui est pas faux.
Ah ouais, c'est vrai. Mais je... Oui, et encore que j'ai envie de nuancer, parce que en fait le problème c'est que comme je suis un peu devenue à une époque vraiment très carrée sur l'entraînement, c'est encore le cas, mais du coup j'occultais les périodes de repos presque, et à ce compte-là en fait c'était pas très efficace non plus finalement.
Donc ouais, il faut savoir se reposer.
Là pour le coup c'est difficile pour moi là pendant une semaine de pas m'entraîner, vraiment c'est super dur.
Mais t'es en décharge, donc c'est que tu fais quand même un petit peu d'activité, mais
très loin d'être à ton
potentiel.
Ouais, voilà, j'essaie de rester active aussi. Ça, Jérémy aussi en parlait dans le podcast, mais rester active, c'est en fait pour moi le principal. Enfin, d'être en santé. Donc là, si on parle de la santé en général, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est vrai que je l'ai vécu, disons, quand j'ai été blessée par exemple et que j'ai pas pu pratiquer pendant une certaine période. pour moi, le fait de rester active, de marcher, de bouger, de tout ça, c'était vraiment, ça m'a permis de pas, à la fois de pas sombrer, ça permet de faire du bien au moral, mais aussi physiquement de se conserver, quoi.
Bien sûr. Bon, j'ai envie de te demander si on pouvait revenir 10 ans en arrière, 10 ans ou 5 ans. J'étais pas. Alors, certains l'auront remarqué. Je t'ai pas demandé ton âge, parce qu'il y a apparemment
oui,
faut demander une âge à une femme. Donc,
je m'en fous. Pourquoi non. Mais je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. C'est
je
bizarre,
sais,
non
tu sais, y a des,
enfin,
y a des règles comme
ça. C'est bizarre
ça,
de dire ça. Pas demander l'âge.
Si, non, mais si, mais ça s'explique. Si Delavie était là, il pourrait, l'expliquer pendant une bonne trentaine de minutes.
Je vais pas
parler à sa place, mais l'âge, en fait, bon, tu sais quoi? Je vais pas me lancer dans des explications parce que c'est pas mon rôle ici. Allez voir Delavie. Pourquoi une femme ne dit pas son âge?
Et du coup, j'ai 26 ans. Enfin, presque.
Ok. Bon, alors 10 ans, ça fait peut-être un peu trop, ça ferait 16 ans.
Ouais.
Mais quand t'es rentré dans tes études, voilà, tes études de cirque. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? Tu la connais cette question, je la pose à tous mes invités.
Et c'est vrai.
Peut-être
en
que
plus,
tu l'as préparé.
J'aurais dû l'anticiper. J'y ai pas
Même
pensé.
Pas.
quel est le meilleur conseil que je me donnerais 10 ans plus tôt? Enfin, en tout cas, au début de mes études. Je dirais que c'est de se faire confiance. De se faire confiance et de suivre son instinct. C'est vraiment. Je crois que c'est le plus important.
C'est ça que t'aurais voulu avoir, qui t'aurait le plus servi à ce moment-là.
Quoi?
C'est quelqu'un, t'as une petite Joséphine qui vient du futur comme ça et qui te dit et confiance. Fais-toi confiance.
Oui, parce que on m'a déjà dit quand même une personne en particulier m'a dit quand je m'entraînais à l'époque en loisir et que je voulais tenter les concours. Elle m'a dit mais tu n'y arriveras jamais. Tu n'auras jamais le niveau et
c'est dur ça.
Et ça a été dramatique d'entendre ça.
Et est-ce
bon,
que alors
ça m'a pas empêché d'essayer.
Mais... ça fait beaucoup de mal, mais est-ce qu'au final c'est pas par une espèce d'ego ou de vanité ça peut pas se transformer en moteur de vouloir lui donner tort?
Alors je pense qu'il y a quand même un peu de ça. Bon après il y a un moment donné où c'est juste que enfin je me suis dit oui mais j'ai vraiment envie d'essayer donc si je sais pas je saurais jamais tu vois donc. Il va pas m'apporter la réponse, donc il y a que moi qui peux savoir. Donc il faut essayer. Et voilà. Okay.
Est-ce que t'as un modèle, un mentor, quelqu'un à qui tu veux ressembler, je sais pas, mais qui t'influence, peut-être dans le milieu du cirque. Hein, je connais pas du tout. C'est encore une fois, je suis très novice moi par rapport à tout ça. Donc il y a des grands artistes peut-être comme ça qui sont connus, qui sont
c'est vrai que je me suis jamais posé cette question.
Je suis là pour poser les questions que les gens ne se posent pas.
Ah oui, c'est terrible. Non, mais c'est fou parce que c'est vrai que en plus j'ai pas trop de modèles. En fait, j'ai des modèles plus ou moins d'admiration par discipline, quoi. Mais dans la mienne, en cirque, je vois pas trop parce que. Si tu veux, parfois en sport c'est facile parce qu'on prend le meilleur, on peut par exemple, mais en fait en cirque il n'y a pas vraiment de meilleur puisque c'est une identité artistique qui va naître sur scène. Du coup, c'est difficile, on ne peut pas trop se comparer. Mais non, après, honnêtement, je suis incapable de te répondre parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont inspiré dans mon parcours et je parle de personnes dans le cirque bien sûr il y a des professeurs que j'ai rencontrés qui vraiment m'ont vachement inspiré par leur expérience etc mais il y a aussi ce fameux voyage en Chine que j'ai fait j'ai rencontré des profs à ce moment-là là-bas qui m'ont encouragé comme on l'a jamais fait dans ma vie. Et c'est vraiment difficile de citer un modèle. Parfois, les parents sont des modèles par certains aspects. Et puis, parfois aussi, les personnes que je peux lire ou que je peux écouter sur des podcasts. J'allais dire, je pensais à Delavie pour ses bouquins, bien sûr, que c'est qu'elle est une personne particulièrement inspirante. Il y a des personnes en développement personnel aussi. Mais C'est vraiment difficile de citer quelqu'un parce que, désolé, je fais appel à trop de choses à la fois.
appel au public ou 50-50. Ok, non, mais c'est bon. Par contre, est-ce que tu as des bouquins qui t'ont marqué, que t'as envie de recommander, hein, ou simplement qui t'ont parlé, qui t'ont plu?
Des bouquins, ouais, bah si. J'allais lire tous les bouquins de la vie, évidemment. La musculation pour les femmes aussi.
Oui, celui-là, tu vois, on me l'avait jamais mentionné. Mais si ça tombe bien.
Je l'ai plus là, je l'ai redonné. J'avais un bouquin de musculation qui avait été écrit par une athlète qui était basée sur s'entraîner en fonction de son cycle hormonal. C'est super intéressant. Il y a beaucoup, il y a de la littérature là-dessus. Je suis désolée, je pourrais retrouver la référence et te l'envoyer si tu veux.
Bah, mais t'inquiète pas, je pense que si je le trouve pas, je te demanderai. Mais
il y en a pas beaucoup, de toute façon. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On l'a pas évoqué, mais voilà, c'est quelque chose, un détail à prendre en compte quand on est une femme et qu'on s'entraîne deux fois par jour. Et puis après, des bouquins de développement personnel. Bah, en ce moment, en tout cas, j'essaye de terminer le pouvoir de l'instant présent, du moment présent, d'Edgar Tolle. Et je dois reconnaître que ça, c'est pas mal. Je regrette un peu je trouve que ça manque un peu d'outils, mais.
Je l'ai pas lu celui-là. Il m'a été recommandé, ne serait-ce que parce que c'est un grand classique du développement personnel.
Bah après,
c'est vrai qu'il est bon, mais.
Les accords Toltec, c'est un peu basique, mais je trouve ça.
Ça, je l'ai lu, ça j'ai aimé. Enfin, j'ai aimé. Je trouve ça, il y a quelques trucs qui sont pas mal.
Oui, voilà, c'est un peu basique, mais c'est pertinent.
Oh, pouf.
Voilà. Et puis après, j'ai lu des bouquins d'anatomie, mais je connais plus les titres. C'est à Guillaume Bilk, le coach, qui les avait filés. Donc, du coup, je les ai plus là, je sais plus le dire. Mais voilà. Général, de façon générale, la littérature scientifique et le développement personnel, c'est quelque chose qui m'inspire pas mal.
Et des romans un peu?
J'allais dire, ouais, je lis pas du tout de romans. En fait, déjà, je lis 3 pages et j'ai envie de dormir le soir, alors, j'ai vraiment des difficultés à lire davantage. Mais pas mal de podcasts, sinon, ça n'a aucun rapport, mais j'écoute pas mal Transfert, qui est un podcast de témoignages de moments de vie. Ça n'a aucun rapport avec le développement personnel et le cirque ou quoi que ce soit, mais je suis assez accro à ce genre de podcast par l'authenticité des témoignages. Et voilà.
Ok, Transfert que je connais de nom, mais que j'écoute pas personnellement. J'irai regarder. Très bien. Bon, je pense que là c'est bon. Je vais laisser les liens en description. Il y aura tout ce qu'il faut si vous voulez vous procurer les bouquins. Ou juste aller regarder de quoi il s'agit. Alors on te retrouve sur Instagram, hein, on revient sur ça. T'as ta page Insta, t'as un Facebook aussi.
Oui, j'ai une page professionnelle qui s'appelle Joséphine se plie en quatre.
Mais j'ai bien aimé le nom, moi. Je trouve ça assez sympa, par rapport à ton activité.
Je crois que tous mes collègues trouvent ça extrêmement cliché. Ils ont bien raison, mais le truc, c'est que les gens s'en rappellent. Donc du coup.
Oui, non, mais c'est extrêmement cliché. Hein. C'est comme les coiffeurs qui mettent le mot cheveux ou tif à l'intérieur sur leur aventure. Bon, là, c'est peut-être un peu cliché, effectivement. Mais se plier en quatre. Alors dans votre discipline, oui, c'est genre oh là là, je fais un jeu de mots. Mais si tu veux, le grand public, en fait, il y en a très peu déjà qui ont des pages, qui ont des réseaux dans ce domaine-là. Mmh. Donc faites-vous plaisir sur les jeux de mots. On n'est pas encore. Il y a loin d'avoir une saturation, quoi, sur le marché.
C'est clair.
Parfait. Je laisserai tout ça, liens, l'Instagram, si c'est on veut sympa. Te suivre un petit peu. J'espère que tu vas nous partager des trucs sympas, là, sur les trucs à venir, là, parce que, Covid, tout ça, c'est terminé, donc, tu vas
pouvoir. Ouais, honnêtement, j'ai pas manqué de boulot, malgré tout, pendant le Covid, donc ça va. Et puis, là, je suis sur 4 créations à la fois, donc, ça va sortir petit à petit.
Parfait. Un dernier mot, un message que tu as envie de faire passer?
Écoutez-vous, faites de la mobilisation. n'oubliez pas que vous avez un corps et que c'est votre vaisseau toute la journée. Donc voilà, c'est important de s'en rappeler. Et puis surtout, voilà, faites-vous confiance, suivez votre instinct.
Parfait, merci. Merci Joséphine. Et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast, évidemment. Hein. Ça, c'est moi qui vous parle maintenant, c'est moi qui le dis. Abonnez-vous.
Faites du cardio en même temps.
Ouais, faites du cardio, allez vous balader. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui écoutent les podcasts pendant qu'ils font leur sport. Chose que je n'arrive pas. Alors moi, je les écoute. J'écoute des podcasts, hein, pas le mien évidemment, ça serait bizarre. Mais pendant que je fais mes échauffements, mais une fois que je commence ma séance de sport et qu'on est un peu intense, je ne peux pas écouter. Je suis obligé de passer sur de la musique. Mais tout ce qui est cardio, les temps morts, tout ça, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Abonnez-vous, Spotify, Apple Podcasts. Deezer, nos minutes, voilà, plein d'applications pour écouter les podcasts qui sont un petit peu plus utiles que YouTube. Si vous les regardez sur YouTube ou que vous les écoutez sur YouTube et que vous kiffez, restez sur YouTube. Hein, mais c'est quand même plus sympa sur les applications. Au-delà de ça, voilà, une note, un commentaire. Je le rappelle toujours, voilà, laissez, hein, si vous voulez propulser un peu plus l'émission, le podcast, si vous avez apprécié les sujets de conversation, et puis partagez-les. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Merci Joséphine.
Merci bien, à toi.
Quitte pas la fenêtre. Et puis voilà, à bientôt. Ciao tout le monde.
Ça marche. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.